Vous écoutez
RMC. RMC Intégral Sport.
Christophe Cessieux.
Bonjour à tous, c'est l'Intégral Sport, une magnifique après-midi de sport qui nous attend sur l'antenne d'RMC avec du foot, avec du vélo et puis évidemment ce soir le classique entre l'OM et le Paris Saint-Germain, journée spéciale sur RMC qui a donc débuté ce matin. On sera dans quelques instants avec Florent Germain à 8h maintenant du coup d'envoi de ce match qui passionne évidemment la France du football. On sera également dans un instant avec Arnaud Souk et Cyril Guimard sur le Tour des Flandres, l'un des monuments, le monument belge du cyclisme, le Tour des Flandres, avec un grandissime favori, Mathieu Van Der Poel. Vous savez, il y a beaucoup de ses adversaires qui ont chuté mercredi et qui sont hors du coup. Du coup, bah, il est le grandissime favori. On sera donc dans un instant avec Arnaud pour faire un point et avec Cyril pour analyser. Et puis, le premier direct du jour concerne le football avec ce derby breton qui va opposer Lorient à Brest. On va tout de suite partir pour Lorient, retrouver Xavier Grimaud. On va analyser ce match avec Sébastien Piocelle qui est à mes côtés. Salut Seb.
Salut Christophe, bonjour à tous.
C'est pas encore parti, salut Xavier, entre Lorient et Brest, mais ça ne saurait tarder.
Salut Christophe, salut Seb. Non, salut, ça va partir dans 5, 4, 3. Tiens, je peux te le faire en breton. Tri, Daou, Ounan, et c'est parti pour le coup d'envoi entre Lorient et Brest, le derby breton. Monsieur Brizard qui donne le coup d'envoi. Derby électrique, hein, très certainement. Évidemment, les objectifs sont palpitants, même s'ils sont opposés. Hein. Les Lorientais, 15e, ont un point d'avance sur le barragiste Nantes, donc ils luttent pour leur maintien. Et Brest, eh ben, des rêves d'Europe et des rêves qui sont peut-être accessibles, même très certainement accessibles, s'ils gardent leur dynamique. Et quelle Coupe d'Europe, ça, on verra plus tard. Donc, et puis, il y a une revanche du match aller. Le match aller était incroyable juste avant Noël, incroyable pour les supporters brestois. 4-0. Cadeau de Noël avec un quadruplé de Camori Doumbia. Un cauchemar absolu, avait dit Yvan Mvogo, le gardien lorientais. Donc il y a une petite envie, eh bien, de faire payer ça aux Brestois. Le stade est à guichet fermé. Le parcage brestois est rempli. Il y a eu un tifo magnifique des ultras lorientais qui a pris toute la tribune sur fond historique, sur l'histoire de la ville. C'était vraiment très bien réussi. Donc bref, il y a tout ce qu'il faut pour ce derby entre Lorient et Brest. Une minute de jeu, 0-0, Christophe.
0-0 dans ce derby breton. On ne s'aime pas forcément énormément, non, entre Lorient et Brestois. Hein. C'est pas...
Non, alors il y a...
C'est le derby, hein. C'est un derby. Il y en a plein,
oui, c'est ça,
derby en Bretagne. Hein.
Ouais, il y en a pas mal. Alors il y a une heure et demie entre les deux villes. Alors pour Brest, c'est normalement plutôt Guingamp, le derby le plus chaud. Mais bon, Guingamp, ça fait un petit moment qu'ils ne sont pas en Ligue 1. Attention, Madi Camara. Oh, c'est dévié par Le Doiron, la frappe de Le Doiron déviée par le bras de son propre attaquant. Ah, c'est dommage parce que c'était cadré, c'était dangereux. Première occasion, situation pour les Brestois. Mais effectivement, pour les Lorientais, l'adversaire, on va dire, le plus chaud, c'est Brest, notamment entre les supporters. Ça se chauffe pas mal, avec souvent des banderoles sur la 4 voies entre Lorient et Brest sur les ponts. On peut
voir
à chaque fois des banderoles des uns et des autres pour se chambrer. Donc voilà. Mais enfin, le déplacement s'est bien placé, il n'y a pas eu d'incident.
On n'a pas parlé, Xav, des compos, mais il n'y a pas de Del Castillo au coup d'envoi?
Non, alors pas de Del Castillo, on en parlait dans les paris, c'est rare, pour une bonne cause. Hein. Il a eu une petite fille dans la nuit de vendredi à samedi, donc il est un petit peu fatigué. Alors il ne prend pas ses 5 jours de congé paternité obligatoire. Bon, les footeux, ils n'ont pas les mêmes choses que nous. Les autres papas, on aime bien rester avec le bébé, mais voilà, donc il est sur le banc.
Okay.
Il est sur le banc, évidemment, il rentrera
avec son bébé dans les bras.
C'est ça, avec la maman qui doit regarder le match dans la chambre en donnant le biberon, très certainement. Et donc c'est Jérémy Le Doiron qui est titulaire, pas de Pierre Lesmélou, hein, du côté de Brest, suspendu. C'est évidemment grosse info au Campo. Ouais, ça fait mal parce que c'est la plaque tournante de Brest. Il a été suspendu une seule fois cette saison dans un match de Ligue 1. Il avait fait match nul 1 partout à Strasbourg, donc on verra si ça a une conséquence. Et du côté de Lorient, la surprise, c'est en attaque avec la première titularisation de l'année de Badreddine Bouanani, le jeune niçois prêté par Nice, arrivé au mercato d'hiver. Et donc petit changement en attaque pour l'équipe de Régis Lebris qui s'est relancée dans la course au maintien. Voilà, donc pour l'instant c'est assez équilibré, le ballon est lorienté là actuellement avec un ballon pour Isaac Touré dans la défense, et la première situation était donc brestoise avec cette frappe détournée par le bras de Le Doiron. 0-0, 3 minutes.
Très bien, on vous retrouve évidemment, messieurs, pour suivre ce match dans quelques instants, mais on va aller retrouver un autre Breton pour parler non pas de football mais de vélo. Cyril Guimard qui va nous accompagner tout au long de l'après-midi, et Arnaud Souk qui lui est en direct de Oudenaarde où sera jugé tout à l'heure l'arrivée du Tour des Flandres. Salut les garçons.
Salut les amis.
Comment ça va,
mon
Cyril?
Bonjour.
Oh, il est sage.
Bonjour, bonjour de la Bretagne, oui. Ouais.
Alors, t'es plutôt l'orienté ou plutôt brestois, toi?
Moi, je suis supporter de toutes les équipes.
Non, mais
t'es supporter quand ça gagne, quoi.
Rennes, on peut même aller jusqu'à Laval.
Hein. C'est le Grand Ouest, quoi. C'est le très Grand Ouest, là. Hein. T'es pas un peu en Normandie aussi, pendant que tu y es, non, ça va?
Non, mais non. Effectivement, peut-être plus de connexion avec Lorient qu'avec Brest, voilà.
D'accord, ouais, c'est trop
ceci dit, temps. J'aimerais bien que Lorient l'emporte, ce qui lui permettrait de se sortir de la zone rouge.
Voilà, et puis Brest, s'il l'emporte, bah, il se rapprocherait de la Ligue des Champions. Bon, Cyril, je sais que t'es grassement payé, mais pas pour parler de football, donc on va parler de vélo, évidemment, avec ce Tour des Flandres.
Il y en a qui sont payés plus cher pour parler vélo que de moi, alors.
Ah, pas beaucoup. Le Tour des Flandres.
Bon, vous voulez parler du Tour des Flandres.
Tout à l'heure, d'Anvers, on va faire un point avec Arnaud, évidemment. On est encore loin de l'arrivée, Arnaud. Je crois qu'il reste un peu plus de 140 km avant l'arrivée tout à l'heure rue de Nantes, c'est ça?
143, exactement, Christophe. 143 km, ce qui signifie que dans 7 km désormais, on abordera les premières difficultés, premier passage par le Coirmont. Vous savez, ces bergs hein, flandriens, il y en aura 17 à franchir aujourd'hui. La plupart pavés, tous ne le sont pas, mais la majorité est quand même relativement pavée. La situation de course, à l'heure où on se parle, il y a 8 hommes en tête, une échappée dans laquelle on compte 4 Belges. On peut citer notamment Bert Van Lerberg, l'un des coéquipiers de Julien Alaphilippe. On peut citer également le français Damien Touzet, 3 minutes 49 d'avance sur le peloton des principaux favoris, évidemment. Le grand favori s'appelle Mathieu Van Der Poel, qui pourrait remporter aujourd'hui son troisième Tour des Flandres et entrer dans le Gotha des triples vainqueurs, comme Cancellara, Bounen ou Johan Musset.
Ouais, c'est vrai, Cyril, c'est plus une pancarte hein, qu'il a dans le dos, Van Der Poel, après ce qui s'est passé mercredi dans une autre course qui se déroulait pas très loin de là, à travers la Flandre, qui a mis au sol Van Aert, Pedersen et quelques autres qui faisaient partie des outsiders et même des favoris de ce Tour des Flandres. Là, c'est vrai que Van Der Poel se retrouve un peu esselé, mais Arnaud le disait ce matin, c'est aussi dans ce genre de course qu'il peut se passer des choses, parce que la pancarte est tellement énorme dans le dos de Van Der Poel qu'il va falloir qu'il assume tout ça. Hein.
Oui, mais comme il y a vent de côté, il va peut-être pouvoir faire un bord avec la pancarte. Oui, alors, le fait qu'il soit l'immense favori, et c'est tout à fait logique, c'est de sa faute d'ailleurs, il n'a qu'à pas gagner autant, et l'absence d'adversaires qui pouvaient logiquement, légitimement sur le terrain remettre en cause sa suprématie, comme Wout van Aert entre autres, ou Matt Pedersen est au départ,
ouais,
mais bon, il a quand même tapé fort le bitume, hein. Comme Garmaille aussi, qui remarchait vraiment très très bien. On pouvait penser à un moment ou à un autre que les adversaires de Van Der Poel l'obligent à mettre très tôt son équipe au charbon derrière une écharpée, l'échappée qui part régulièrement dans la première partie de course. Elle est partie, mais finalement on court comme si toutes les équipes pouvaient gagner. Donc elle court avec l'ambition de gagner en apparence, mais Van Der Poel reste quand même là. J'ai presque envie de dire, il est un tout petit peu aidé par ses adversaires qui rêvent de le tuer.
Ouais.
On peut citer peut-être justement.
Oui, vas-y, donne quelques outsiders.
Rappeler d'abord que Wout van Aert, donc du coup, n'est pas là. Ça aurait été le duel entre les deux.
Oui.
Pour autant, imaginez un coureur comme Matteo Jorgensen, hein, de la même équipe, d'ailleurs Visma Liesebike, s'imposer aujourd'hui n'est absolument pas de l'ordre de l'extraordinaire ou du surréaliste. Hein. C'est un coureur qui marche très très bien depuis le début de la saison et qui déjà s'était bien classé pour son premier Tour des Flandres l'an passé. On peut citer Alberto Bettiol. On peut citer pourquoi pas Stéphane Kung et Lorenz Pitti pour la Groupama FDJ, Matej Mohoric pour Bahrain Victorious, on a Michael Matthews également pour Jaikko Alula, ou encore hier Lascano pour Movistar, Timo Hellens, Matteo Trentin, Dylan Teuns, voilà autant
de français dans
alors j'aurais dans pu citer Valentin là, Madouas hein. J'aurais pu citer Valentin Madouas, je vais peiner à te citer Julien Alaphilippe,
ouais.
Parce que Julien Alaphilippe il a même pas reconnu les mon pavé pour la simple et bonne raison qu'il se ressent encore d'une chute qu'il avait subie sur l'Estrade Bianche et qu'il risque aujourd'hui d'avoir très mal et qu'il espère faire la meilleure course possible, mais voilà, il se fait aucune illusion sur la possibilité aujourd'hui de briller sur les routes du Tour des Flandres. Donc voilà, oui, c'est vrai que les Français, ça se résume à essentiellement quand même à Valentin Madouas hein.
Ouais, malheureusement c'est pas encore cette année qu'on trouvera un successeur à Jacques Durand, a priori dernier vainqueur.
Je peux me tromper hein, mais
tu peux te tromper, on peut tous se tromper, mais
bon.
Bah, ce serait souhaitable que Axel Laurence.
Ah bah oui, il serait bien qu'il se trouve un jour, quoi.
Sur les citer Axel Laurence aussi, le coéquipier de Mathieu Vanderpool.
Il fait son premier Tour des Flandres, ouais.
Mais bon, il y a pas, voilà, a priori, ça
il est au charbon, lui, hein. Il est au charbon d'entrée.
Donc voilà, Florian Sénéchal, qui est un Flandrien averti, malheureusement, ça risque d'être court également pour lui.
Bon, eh ben, on va pas se faire d'illusions et on va se concentrer sur cette magnifique course. 140 km encore de l'arrivée. On va vous retrouver tout au long de l'après-midi pour évoluer, voir l'évolution de cette course, cette magnifique course qui enthousiasme toute cette région de la Belgique. C'est vraiment le jour de fête pour les Flamands aujourd'hui. À tout à l'heure, messieurs, 13h09 sur RMC. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un petit événement footballistique qui nous attend ce soir. Ça va se passer à Marseille, au Stade Vélodrome, le fameux classique du championnat de France entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. Alors évidemment, il n'y a pas photo en termes de classement, il n'y a pas photo en termes d'objectifs pour les deux clubs, Seb, hein, c'est, voilà, Marseille veut gagner parce que battre Paris, c'est important, c'est un, ça arrive pas souvent et c'est très important évidemment parce que la saison n'est pas aussi bien réussie qu'elle devrait l'être côté marseillais. Côté parisien, c'est peut-être un peu moins un objectif avéré, même si évidemment c'est un classique.
Voilà, ce que j'allais dire, ça reste un classique et forcément un match particulier dans la saison des deux clubs et des supporters des deux clubs. Forcément que Marseille qui est tout de même invaincu à domicile hein, depuis le début de la saison arrive un petit peu diminué après une superbe série hein, depuis l'arrivée de Jean-Louis Gasset. Ils partent pas favoris, mais après avec l'engouement qu'il y a, on parle certainement d'un nouveau record d'affluence au Vélodrome. J'ai envie de dire tout est possible, même si le Paris Saint-Germain peut, j'ai envie de dire presque peu importe l'équipe alignée par Luis Enrique, on sait qu'il y a toujours des surprises dans son 11 de départ. Forcément et assez largement favori sur cette rencontre-là.
Alors ça, la compo du Paris Saint-Germain, on l'aura qu'à la dernière minute parce que le coach adore brouiller les pistes et il a bien brouillé les pistes en conférence de presse. Mbappé sera-t-il là ce soir? Sera-t-il titulaire au coup d'envoi? Pour l'instant, on n'en sait rien. Et on verra ça tout à l'heure. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur la compo de l'Olympique de Marseille? Parce qu'il y a pas mal de blessés, tu le disais Sébastien. Eh bien, on est en direct de Marseille avec Flo Germain, qui est avec
nous. Salut Chris.
La grande journée
salut,
continue. Salut mon Flo. Je crois que le groupe vient de tomber, enfin où est tombé,
oui.
Et qu'on a donc des confirmations, peut-être des bonnes surprises ou non?
Des surprises, enfin c'est ce qu'on disait hier, à savoir les retours officiels ce coup-ci de quatre joueurs qui étaient incertains, donc Balerdi, Gigot, Garcia et Gay. Après c'est un groupe de 21 joueurs qui est communiqué, donc tout le monde ne sera pas sur la feuille de match, mais le fait qu'ils soient là, ces quatre joueurs, donc on rappelle Balerdi était en délicatesse avec les adducteurs comme Ulysse Garcia, Gigot c'est une entorse acromio-claviculaire, donc douleur à l'épaule, il s'en remet petit à petit. Mais c'est un joueur qui joue beaucoup à l'impact, qui aime être au duel. Il y a parfois des chocs et des traumatismes donc dans sa manière de jouer. Est-ce que ce serait risqué de le relancer tout de suite? Honnêtement, il y a un petit point d'interrogation. Et en termes de rythme, parce que au contraire de Balerdi et Garcia, qui eux n'ont pas trop coupé au final, il y a eu la trêve internationale. Balerdi n'avait loupé que le dernier match avant la trêve. Eux, ils sont plutôt dans les clous et je pense ont quand même le rythme. Gigot un petit peu moins. Et Pape Gay, lui, c'était un mollet, une petite alerte au mollet qui l'avait déjà privé de au moins d'un match lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc il y a un petit point d'interrogation concernant la compo, mais si on doit se lancer, on peut évoquer un 4-3-3 avec Ulysse Garcia donc plutôt côté droit, Paul Lopez dans le but, Merlin à gauche, Charnière Mbemba avec à ses côtés donc Balerdi ou Gigot, peut-être pas les deux, parce que s'il y avait les deux ça voudrait dire qu'on part sur un Mbemba latéral droit et du coup une charnière Gigot-Balerdi où les deux seraient pas à 100%, donc plutôt Mbemba associé à l'un des deux, Gigot-Balerdi. Au milieu de terrain, Veretout, Kondogbia et Unai ou Gay, et donc trio offensif avec Harit en position un peu de numéro 10 pour travailler aussi au cœur du jeu, il aime ça, et donc deux attaquants, Illiman Ndiaye et Pierre-Emerick Aubameyang. C'est vrai que par rapport aux préoccupations de la semaine et à la trêve internationale qui a été compliquée en termes de blessures et de pépins physiques, notamment le gros coup dur, enfin les deux coups durs, c'est Bamo Meïté en début de trêve qui voit Luis Enrique lui retomber dessus, double entorse de la cheville, donc Bamo Meite forfait, et Jonathan Clauss, évidemment, on l'a suivi en équipe de France, qui sort blessé. Au-delà de ces contrariétés, le 11 qu'on vient de dénoncer, possible, probable, il a une allure correcte. Alors évidemment, Paris reste favori, mais malgré tout, je pense qu'on a limité la casse du côté du staff de l'OL.
Ouais. Seb, ton avis sur la question et sur les compos probables que nous a livré Florence, ça a quand même, voilà, ça se tient, quoi.
Ah oui,
cette équipe, même s'il y a des absents de marque.
Ouais, le 11 annoncé par Flo, même si bon, il y a toujours quelques doutes sur la charnière centrale, mais ça tient la route. C'est des joueurs qu'on jouait régulièrement et surtout depuis l'arrivée de Jean-Louis Gasset. C'est une équipe qui a fini sur les rotules, hein. On l'a vu lors du dernier match, lors des deux derniers matchs avant la trêve. Donc j'espère qu'ils ont rechargé un petit peu les batteries. Et encore une fois, Flo, je crois qu'ils annoncent peut-être le record d'affluence, peut-être au Vélodrome.
Oui,
en tout cas, ça va être une ambiance de folie. Donc ça peut aussi les amener. Il y a quelque chose j'ai l'impression qui s'est passé là depuis l'arrivée de Gasset, notamment aussi avec le public, qui peut peut-être aussi les porter. Après, il y a la qualité du Paris Saint-Germain, mais tout est possible. Après, le truc, c'est qu'avec toutes ces absences, c'est la profondeur de banc, donc il y a moins de solutions aussi. Il y a pas de Sarr, par exemple, qui est là. Il y a moins de solutions, on va dire, pour sortir du banc, notamment sur le plan offensif.
Il y aura Mumbanya, Luis Enrique éventuellement, s'il n'est pas titulaire. On peut citer Joaquin Correa, mais il est vraiment en grande difficulté cette saison. Et puis selon les choix au milieu de terrain, un Gueye ou un Unai pourrait être sur le banc. Donc il y aura quand même quelques solutions. Oui, je te confirme, record d'affluence. On n'a pas le chiffre exact, mais le record, il est de 65 894 supporters ou spectateurs. C'était pour le match au MPSG du 26 février 2023 en Ligue 1. Voilà, le fait qu'il n'y ait pas de supporters parisiens, ça libère cette zone réservée habituellement aux visiteurs, donc l'OM peut vendre plus de billets. Effectivement, on va se rapprocher des 66 000 spectateurs, donc record d'affluence qui va être battu tout à l'heure à 20h45.
Magnifique. Je me demande comment on réussit quand même à chaque fois à battre des records d'affluence alors que les stades.
Je vais te le dire, c'est juste un petit jeu marketing.
C'est ça, mais c'est juste pour faire du marketing.
Exactement. Et juste un mot, parce que ça me tient à cœur, il y aura une petite ovation avant le match pour Eric Guéretz, qui est arrivé.
Coach belge
qui est arrivé sur Marseille en famille hier midi. Il a passé le week-end, enfin il passe le week-end sur Marseille. Il a mangé un bon petit poisson sur le vieux port. Alors va-t-il donner le coup d'envoi fictif, ça a point d'interrogation parce qu'il est assez diminué physiquement, mais donc en tout cas il sera au bord de la pelouse avant le coup d'envoi, entouré des siens, et je pense que le public aura à cœur de lui réserver une belle ovation parce que Guéretz a été apprécié humainement et par le jeu déployé par son équipe, il a été apprécié par les fans de l'OM.
Merci Flo, coup d'envoi de ce match, 20h45 à suivre évidemment dans l'after live, l'avant-match, et puis l'after aussi qui sera prolongé jusqu'à 1h du matin avec la libre antenne. Vous en avez pris l'habitude pour ce match. Allez, un petit détour par Lorient, à moins qu'on soit dans le vieux Coirmont, le premier passage peut-être du Tour des Flandres, dans ce passage mythique, Arnaud, est-ce qu'on
absolument,
y est
on est dans le vieux Coirmont pour le groupe de tête à 135 km de l'arrivée. Il y en aura 3 aujourd'hui, des passage par le vieux Coirmont. Le premier, bon voilà, on va dire c'est cool. Les deux autres seront beaucoup moins cool puisqu'ils seront suivis du Paterberg, qui est un mur pavé de 360 mètres mais avec des pentes maximales à 20,3%. On voit que la météo, on va dire un petit peu pluvieuse de ces derniers jours, n'a pas refroidi les gens qui sont venus mettre les chaussures dans la boue au bord de la route. Évidemment, 1 million de personnes attendues aujourd'hui sur les routes belges. Une ferveur incroyable en Belgique.
Il n'y a pas que de la boue, parce que là on voit les hospitalités, parce que dans le vieux Coirmont, évidemment, il faut payer sa place désormais pour aller assister à la course. Et là, on n'est pas dans la boue, hein. On est quand même dans des. Voilà,
T'es pas obligé de la payer, hein. Mais si effectivement tu es dans l'un de ces grands barnums qui sont au bord de la route, où là tu as pour quelques centaines d'euros la possibilité de voir aux premières loges les coureurs avec en plus une petite coupe de champagne, et je sais que tu aimes ça, mon cher Christophe, et que tu ne renierais pas une petite invitation si jamais. Ah tiens, alors qu'on a une petite chute à l'arrière du peloton, mais c'est pas grave, non, c'est surtout un un petit souci technique, manifestement mécanique pour un coureur, pour Dylan Teuns, le coureur d'Israël Première Tech, et également pour l'un des coéquipiers de Valentin Madouas. Bref, 135 km encore à parcourir, 4 minutes d'avance pour les échappés, dont le Français Damien Touzé.
Très bien, on va revenir dans quelques instants sur cette course. On fait un point
c'était
en
bien
foot.
Chute, hein. Autant pour moi, ouais, c'était bien une chute.
D'accord. Le foot, l'un des derbies bretons, l'un des plus passionnés entre Lorient et Brest. On joue depuis 18 minutes, Xavier Grimaud.
Oui, toujours 0-0 entre Lorient et Brest. C'est assez équilibré, un peu plus de menaces pour, sur le but brestois, on va dire, avec notamment une belle technique de Boinani. Hein. On a vu sur son pied gauche des petits crochets qui avaient mis un peu dans le vent la défense et ça a donné un centre dangereux dégagé en corner. On avait aussi un grand pont de Darling Yongwa sur Bradley Loco qui a été dégagé premier poteau par les Brestois. Pour l'instant, c'est équilibré. On va suivre juste rapidement. Ouais, le bon ballon en profondeur pour Boinani, justement, la remise de la tête. Mohamed Bamba, côté droit pour Calceris qui se la emmène. Il va pouvoir frapper le grec une fois, deux fois. Boinani la frappe, c'est contré, la parade de but, c'est énorme. Et c'est dégagé par Chardonnay. Énorme situation pour les Lorientais et l'arrêt réflexe de Bizot parce que cette frappe de Boinani a été légèrement déviée. Il faut la main gauche de Bizot pour dégager cette frappe avec là encore beaucoup d'altruisme de la part de Boinani et de Calceris. Seb qui va chercher la passe dans l'axe.
Déjà, Xav, l'arrêt réflexe de Bizot, il est assez impressionnant. Elle n'a pas encore revu au ralenti. Mais l'action en tout cas des Lorientais qui ont peut-être un peu moins le ballon que les Brestois, mais qui sont plus dangereux dans les 30 derniers mètres. Et c'est vrai que Boinani, pour l'instant, ils sont vraiment bien en jambes pour une de ses premières titularisations. Et là, c'est lui qui a failli marquer. L'action était très belle en tout cas.
Première grosse occasion et grosse parade de Bizot. On en verra d'autres. Hein. Il en fait toujours 5, 6, 7 et plus ses affinités par match. Marco Bizot, excellent cette saison. La 20e, 0-0.
Il a mis directement en corner. Ouais,
une place en retrait qui va finir par un corner. Un peu étonnant. Corner tiré par Lorient. Tu veux le suivre, Christophe ?
Allez, on va suivre le corner.
Allez, corner tiré sur la gauche en regardant les buts de Marco Bizot, le Néerlandais, rappelé en sélection pendant cette trêve internationale en tant que troisième gardien. Ça montre qu'il est évidemment extrêmement performant avec le Stade Brestois et qu'il est une des pierres angulaires de la belle saison de Brest. Corner tiré cette fois par Julien Ponceau avec un droitier. Tout à l'heure, c'était Boinani, pied gauche. C'est dégagé par Martin Satriano. 0-0, la 21e, mais les Merlus, on va dire, poussent un peu plus quand même que les Finistériens.
Et évidemment, 13h20 sur RMC. On revient dans un instant pour suivre donc ce match, le Tour des Flandres et puis notre page olympique, comme tous les dimanches, avec Léna Marjac qui va nous parler notamment de judo. Il y a un tournoi très important qui se déroule à Antalya, en Turquie. Teddy Riner est de la partie et Madeleine Malonga également. Elle peut aller chercher sa qualif aujourd'hui si elle passe en finale. On va tout vous dire dans un instant. À tout de suite.
RMC Intégral Sport.
Christophe Cessieu.
Il est 13h22, vous êtes sur RMC, vous avez fait le bon choix parce que c'est une belle après-midi de sport qui nous attend dans ce week-end pascal avec, pour les amoureux de vélo évidemment, le Tour des Flandres, l'un des monuments, sinon l'un des plus grands monuments, en attendant Paris-Roubaix, parce que Paris-Roubaix est encore plus fort parce que c'est chez nous et ce sera dimanche prochain et on le vivra évidemment sur RMC. En attendant, nous sommes en Belgique aujourd'hui, on suit également le match entre Lorient et Brest, donc Lorient-Brest se derby breton, pour l'instant 0-0 entre les deux formations, et puis on va faire une petite place à l'actualité olympique dans un instant. On fait le point tout d'abord sur le Tour des Flandres avec Arnaud Souk, avec Cyril Guimard. On a donc passé les premiers secteurs pavés, notamment ce Coiremont qui fait peur à tout le monde, Arnaud.
Distinguons les secteurs pavés des monts pavés, puisque l'organisateur nous indique qu'il y a 7 secteurs pavés quand même sur ce Tour des Flandres, et il y a 17 monts dont je les ai compter 11 sont pavés. Ça veut dire qu'il y en a 6 qui ne sont pas pavés. Bref, toujours est-il qu'on a passé les deux premiers secteurs pavés et le premier mont pavé, en l'occurrence le Vieux Coiremont, et on a vu les images qui étaient très belles sur le Vieux Coiremont, Cyril. On a vu que même si c'est pas les pavés de Paris-Roubaix, hein, même si c'est pas aussi disjoint, aussi saillant, aussi remuant que ça ne peut l'être sur l'Enfer du Nord, quand même, quand on regardait les bras des cyclistes, on se rendait compte que sur 2 km, ça doit faire mal de trembler quand même en permanence. Hein.
Oui, même s'ils sont un petit peu entraînés quand même sur les pavés. Et comme il n'y a pas de pluie aujourd'hui sur ces pavés, eh bien on passe un petit peu plus vite. Et quand on passe plus vite, eh bien ça tape un petit peu plus fort. Ça fait un bon vibromasseur. Le lendemain, on a des courbatures partout, mais c'est pas grave. Ça s'est monté tranquillement, finalement, cette ascension. Et On a pu voir que Van Der Poel est aux premières loges, d'autres favoris également, et que Alaphilippe, lui, est quand même dans le dernier quart du peloton, un petit peu comme Valentin Madouas. C'est un peu loin, d'autant qu'il y avait déjà eu une chute au pied de ce vieux Quaremont.
Et puis devant, eh bien on voit, enfin, en tête de peloton, on voit les coéquipiers de Mathieu Van Der Poel, hein, qui assure le tempo. Mon cher Arnaud, c'est la preuve que, évidemment, le champion du monde a de très grosses ambitions dans ce Tour des Flandres, lui qui voudrait s'imposer pour la troisième fois et rejoindre donc un groupe très fermé des triples vainqueurs. À tout à l'heure, les garçons, le foot, la Bretagne nous gagne. Lorient-Brest, mais pour l'instant, personne ne gagne, Xavier Grimaud.
Non, 0-0, 25 minutes de jeu, mais on a encore vu Lorient dangereux, les Brestois qui ne cadrent pas assez Boinani, hein. Seb qui fait vraiment 25 premières minutes excellentes, le jeune joueur prêté par Nice, attention au centre de Ledoiron pour les Brestois, capté par M. Vogo, là il était bien trouvé, encore il a fixé la défense, il a pu donner à 4 séries le centre fort devant le but, et à nouveau Lilian Brassier qui est obligé de dégager en corner. C'est très intéressant ce qu'ils font les Lorientais avec du jeu au sol dès qu'ils récupèrent le ballon, alors que Brest a beaucoup de mal à gagner des mètres avec la balle
dans le milieu, surtout en fait ils ont beaucoup de mal, et la position aussi de Bonani entre les lignes leur fait mal, au-delà de sa technique, hein, parce que là aussi dans toutes ses prises de balles, pour l'instant ses choix aussi d'aller fixer là sur la dernière occasion, encore une fois la maîtrise sur son contrôle et puis le bon ballon donné à droite. Ouais, il faut qu'ils arrivent à mieux se parler, peut-être les Brestois, mais je les sens à chaque fois un petit peu en retard. On a du mal à
tout à fait le Brest d'il y a quelques semaines quand même, hein. C'est moins,
ouais, alors après il faut pas les enterrer trop vite, parce qu'on les a vu faire des matchs aussi un peu en difficulté, et puis quand il n'y a pas Lesmelou et Del Castillo quand même dans ton 11 de départ, aussi, même si Jonas Martin ne démérite pas, il y a d'autres automatismes à trouver. Et puis pour l'instant, Lorient qui a pas mal de maîtrise et qui leur pose beaucoup de difficultés, encore une fois, là, entre les lignes.
Exactement, Martin qui ne démérite pas, mais forcément, ce n'est pas lui qui va se projeter comme peut le faire Lesmelou, hein, qui peut jouer point de basse, mais qui peut se projeter et frapper souvent. On se retrouvait même dans la surface de réparation. Martin, il reste vraiment dans sa zone. Hein, donc forcément, ça change un petit peu là. Le jeu brestois, et là encore effectivement un ballon bien amené dans la surface par les Lorientais. Un nouveau corner à suivre pour les Merlus, ça va être le quatrième maintenant. Celui-là il est sur la droite, en regardant les buts de Marco Bizot. Alors ils sont pas si mal tirés que ça, hein, les corners, en tout cas la zone est bonne, mais à chaque fois il y avait un Brestois pour le dégager. Ce sera le pied gauche de Badreddine Bouanani, donc la surprise du 11, mais pour l'instant surprise réussie pour Régis Lebris, tiré premier poteau, ça manque un petit peu de hauteur, c'est dégagé trop facilement par Jonas Martin. La 28e, 0-0 entre Lorient et Brest, et je vois un Éric Roy qui fait un peu les 100 pas dans sa zone technique et qui s'agace. Attention, ce 62e poteau où il y a une main de Chardonnay, c'est contré, a l'air de dire Monsieur Brizard, ça va peut-être être revu suite à une tête d'Isaac Touré, la remise d'Isaac Touré dans la surface de réparation, la main elle est visible, tout le monde l'a vu, la nouvelle tête d'Isaac Touré captée par Marco Bizot. Isaac Touré demande la main, Monsieur Brizard redit c'est l'épaule et le bras est collé, forcément le VAR va l'appeler, il a l'air sûr de lui, hein, Monsieur Brizard. Et on verra au prochain arrêt de jeu malgré tout. La 28e, 0-0. Ah, on voit sur l'écran.
Brassard. C'est au-dessus du brassard.
Donc ouais, la zone ne compte pas. Le bras, ça va jusqu'à la manche. Hein. C'est ça, la délimitation de la manche, a priori, pour une main, sauf si le bras est décollé.
Si ça n'a pas changé pendant la trêve.
Oui, c'est ça. Tu as raison. La 29e.
Ça a changé la trajectoire. Ça a arrêté le ballon.
C'est une question par rapport à la.
Yannick Cahuzac, adjoint de Régis Lebris. Qui est sorti de sa zone technique et qui s'est mis nez à nez avec Éric Roy, et il continue.
Il n'a pas encore taclé, parce que
non, il a
pas bien taclé.
Il est chaud entre les.
Yannick Cahuzac qui repousse même Ronald Thomas, l'entraîneur des gardiens lorientais, donc son coéquipier, son collègue, parce qu'il veut s'en prendre à Éric Roy. Il va prendre un rouge, c'est normal. Je ne sais pas ce qui s'est dit entre les deux hommes, alors qu'Éric Roy, lui, il reste d'une placidité incroyable, alors que c'est peut-être lui qui a allumé la mèche, on n'en sait rien. En tout cas, Cahuzac, il est parti au quart de tour. On le connaît, hein.
Je trouvais assez calme quand il est arrivé. Il a pris un jaune le dernier match, je crois.
Et il prend un rouge mérité
parce que Eric, c'est un ancien Niçois. C'est vrai que sur l'action, peut-être qu'il s'imaginait pouvoir récupérer un pénalty, mais.
Bon, en tout cas, ça rend encore le match encore un peu plus électrique. Les Lorientais qui vont finir, bon, pas à 10, hein, parce qu'on va pas compter les membres du staff, mais Cahuzac va suivre la fin du match dans les vestiaire. Toujours 0-0 la demi-heure.
Très bien, tout à l'heure. Il y a eu une chute sur le Tour des Flandres, là. Qu'est-ce qui s'est passé, Arnaud, là?
Oui, il y a une chute, effectivement, en arrière de peloton. Ça visse sévère en tête de peloton, et forcément, ça fait des dégâts. Et derrière, il y a une chute. Il y a plusieurs coureurs qui ont été impliqués, a priori. Rien de grave, mais bon, encore une fois, la preuve que ça chute quand même beaucoup dans ce printemps cycliste.
Ok, 13h29 sur RMC, c'est l'heure de notre page olympique en route pour Paris 2024.
Attention, arbitrage vidéo. Arbitrage vidéo, attends. C'est souvent pas bon signe quand l'arbitre va voir pour l'équipe qui aurait éventuellement fait la faute. Brendan Chardonnay qui se rapproche de la zone technique, mais Monsieur Brizard va regarder, évidemment tout le moustoir est debout, est en train d'encourager Monsieur Brizard à siffler.
Il n'y avait pas eu d'arrêt de jeu,
à siffler pénalty. Il y a eu l'arrêt de jeu grâce au petit pétage de plomb de Cahuzac, qui va peut-être permettre d'avoir un pénalty pour les Lorientais. Alors on ne revoit pas l'image, hein. Seb, si tu le revois, tu pourras la décrypter mieux que moi.
Pour l'instant, il attend l'image.
Lui aussi, il a un beau logo de la Ligue devant lui, peut-être le nouveau, je ne sais pas.
En tout cas, ça peut être évidemment
Ça y est, voilà, l'image arrive, enfin pour l'arbitre, pas pour nous.
Un moment très important, ouais, on la revoit, on voit, l'image, paf, avec la remise paf. De la tête d'Isaac Touré, on voit pas grand chose, hein, sur le bras a l'air quand même de partir un peu.
Après
droit.
C'est
ouais, franchement c'est non, là franchement ça me paraît, non, il y a pas penalty. Je suis assez d'accord avec Monsieur Brizard, l'angle du bras est quand même tout à fait normal, hein, Seb.
Alors, le bras il est pas dans une position naturelle, mais en tout cas le ballon il me semble plus aller quand même vers l'épaule, plus ouais. Épaule que
Ça se joue à rien. C'est...
Mais il a peut-être bien fait d'aller voir aussi. Ça fait partie des nouvelles consignes pendant la trêve.
Il a été rappelé 2-3 minutes après.
Souvenez-vous, hein, pendant la trêve, son nom échappe, le chef des arbitres, Anthony Gauthier, qui a dit que peut-être que les arbitres devaient aussi aller voir le VAR pour calmer les esprits, notamment des Lorientais. Et même s'il était sûr de lui, c'est sans doute ce qu'il a fait.
Ça a l'air de les calmer, en tout cas.
Monsieur peut-être Brizard. Que s'il était allé voir plus tôt Cahuzac, ce serait moins énervé. Il n'aurait pas été
expulsé. C'est le jeu, il est obligé d'aller voir quand il y a un arrêt de jeu. La 32e, 0-0, pas de pénalty pour Lorient. 0-0 entre Lorient et Brest.
Ok, 13h31, on revient vers vous dans un instant, comme sur le Tour des Flandres et comme sur le Mega Olympique, parce que là, on va attendre quelques minutes. Hein. Léna, elle est là, elle est bien avec nous, elle écoute ce qui se passe et elle va tout nous raconter dans un instant. À tout de suite.
RMC, Intégral Sport.
Christophe Cessieux.
L'Intégral Sport ce dimanche, Pascal, du foot au programme, du vélo, le Tour des Flandres, ça va pas s'arrêter tout de suite, il reste 122 km encore, 3 minutes 25 pour un petit groupe d'échappés, le peloton qui roule très vite derrière, on fera un nouveau point dans quelques instants, et puis le foot 0-0 pour le moment entre Lorient et Brest, les esprits se sont un peu échauffés tout à l'heure, Yannick Cahuzac, l'un des adjoints du banc lorienté, a été expulsé. 13h34, c'est l'heure de notre page olympique, on va y arriver cette fois, allez on y va.
RMC en route pour Paris 2024.
Avec Léna Marjac, qui est là, qui est notre déléguée olympique durant tout le week-end. Comment ça va, Léna ?
Ça va très bien, merci Christophe.
En pleine forme, donc, pour évoquer l'actualité olympique du jour et une actualité où on parle beaucoup de ce rôle de porte-drapeau. Il y a une véritable campagne électorale qui est en train de se mettre en place entre les différents volontaires pour porter le drapeau français.
Oui, et justement, Florent Manaudou est officiellement candidat pour être porte-drapeau. C'était le week-end dernier, un nageur français s'est confié sur nos antennes. Il veut donc porter le drapeau tricolore de la délégation française lors de la cérémonie d'ouverture. Et Manaudou peut justement compter sur le soutien de ses coéquipiers en équipe de France, Maria Azé.
Florent Manaudou ne se cache plus, il est officiellement candidat pour être porte-drapeau lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques.
Je serais très fier de pouvoir l'idée l'équipe de France. C'est quelque chose qui me fait rêver parce que quand je vois les porte-drapeaux précédents, c'est des gens qui ont été des inspirations pour moi. Donc j'estime que si jamais un jour je suis porte-drapeau, ça voudra dire que je suis peut-être aussi une inspiration pour des jeunes.
Une candidature très soutenue par les nageurs de l'équipe de France, à commencer par Johan Ndoye-Broa.
Bien sûr à fond parce que c'est notre discipline. C'est vrai que déjà à Tokyo, j'étais déjà derrière lui, j'espérais déjà qu'il soit porte-drapeau, mais il l'a pas été.
Le champion du monde du 100 mètres papillon, Maxime Grousset, aussi milite pour son coéquipier.
Moi, je le soutiens à 100%, j'espère que ça lui porte-drapeau. Ouais.
Avoir déjà participé au jeu, ne pas avoir été déjà porte-drapeau et présenter un casier judiciaire vierge, voilà les trois conditions majeures pour espérer porter le drapeau français lors de la cérémonie d'ouverture. Des conditions remplies par Florent Manaudou qui le mériterait d'autant plus au vu de son palmarès pour Ndoye-Broa.
Avoir une médaille sur trois Olympiades différentes, il n'y a pas beaucoup de monde qui l'a fait, donc j'espère pour lui qu'il va être le porte-drapeau. Et être le porte-drapeau à Paris, ça a une autre saveur, je pense aussi.
Et le soutien pour le champion olympique du 50 mètres nage libre va même au-delà des nageurs, puisque le handballeur Nicolas Karabatic a déclaré que Florent Manaudou faisait partie de ses favoris.
Et c'est un duo hein, qui portera ce drapeau tricolore, un homme et une femme. Et justement, chez les femmes, la lanceuse de disques Mélina Robert-Michon, qui participera à ses 7e Jeux, s'est elle aussi portée candidate. Écoutez, c'était au micro de Morgane Maury cette semaine.
C'est quelque chose qui me tient à cœur parce que les Jeux, ça représente énormément de choses pour moi. Ça a guidé plus de 20 ans de ma vie. Ils doivent me choisir si mon parcours les inspire, si ma personnalité leur plaît. Je pense que chacun a une définition un peu propre du rôle de porte-drapeau, de qui ferait un beau porte-drapeau. Et voilà, ça doit correspondre à leur idée à eux. En tout cas, moi, je serais très fière de les représenter, de les emmener tous avec moi sur ces Jeux pour que ça soit une belle réussite.
Et donc on saura à partir du 8 juillet prochain qui sera donc le duo porte-drapeau. Et ils seront donc élus par les votes de l'ensemble des athlètes qualifiés
donc
pour les Jeux.
A priori, on se dirige vers un représentant d'une grosse fédération.
Bah, ça pourrait être
l'athlète, la natation, le
vélo
peut-être.
Là où il y a le plus d'athlètes
olympiques,
sélectionnés, effectivement.
Ouais. Et aussi, il y a peut-être aussi les sportco. Les sportco, ils ont une belle délégation à chaque fois. On verra. Un porte-drapeau masculin, un porte-drapeau féminin. Un seul drapeau ou deux drapeaux, Léna, à la colle là.
À Tokyo, c'était deux drapeaux.
C'était deux drapeaux.
Ouais, deux drapeaux. Donc, je pense que ça devrait être pareil.
Ben oui, normalement. Ils vont pas se le partager en pleine cour. Et tiens, c'est à toi de le porter le drapeau. Ah non, j'ai pas envie. Lui ne sera pas porte-drapeau, mais il risque de faire briller la France au JO. C'est Léon Marchand qui sera plutôt porte-étendard de l'équipe de France.
Eh ben, sûrement. Mais d'abord, il fait surtout briller les couleurs de son université américaine lors des finales universitaires à Indianapolis. 3 victoires sur des courses individuelles et 3 records personnels. Léon Marchand s'est imposé sur le 500 yards nage libre, le 404 nage et les 200 yards brasse. Même lui est étonné de ses performances.
Surpris sur quelques courses, ouais, vraiment, parce que je pensais pas être capable de faire ça. Et surtout de le répéter pendant 3 jours, c'est très intense. Et même le dernier relais, au final, je fais un super temps. Donc j'ai vraiment réussi à bien gérer mon énergie au fur et à mesure de la semaine. Donc je suis surpris.
C'est une interview réalisée donc par Julien Richard, notre envoyé spécial à Indianapolis. Et donc, en plus de ses titres individuels, Léon Marchand repart avec le titre de champion universitaire avec sa faculté d'Arizona State.
Arizona State, champion universitaire. Madeleine Malonga est en finale au Grand Chelem de Turquie. Il s'agit évidemment de judo et c'est important pour elle parce qu'on sait qu'elle est en concurrence avec une autre judokate pour représenter sa catégorie à Paris.
Oui, belle opération de Madeleine Malonga. Médaille donc assurée au Grand Chelem d'Antalya en Turquie. Elle sera en finale face à une Allemande dans l'après-midi. Et donc, on vient de le dire, c'était un résultat important parce qu'elle joue sa place aux Jeux Olympiques sur ce week-end. Pour rappel, le comité de sélection de la fédération n'avait pas pu trancher entre Audrey Tchemeo et donc Madeleine Malonga pour la seule et unique place aux Jeux en moins de 78 kilos. Il fallait donc les départager. Audrey Tchemeo était la semaine dernière en compétition. Elle a terminé 5e. Et donc, en toute logique, Madeleine Malonga, avec cette finale, devrait récupérer son ticket pour les Jeux. Et on suit aussi Teddy Riner, engagé dans la même compétition en Turquie. Il est lui aussi en finale des
plus. A priori, il devrait faire les Jeux, lui.
Lui, il n'y a pas trop de doute. Finale donc en plus de 100 kilos. Finale aussi donc plus tard dans la journée. Et l'objectif de Teddy Riner sur ce tournoi, c'est surtout de gagner de précieux points pour aller chercher un statut de tête de série aux Jeux Olympiques à Paris cet été. Avec son résultat du jour, il devrait donc remonter au classement et donc prendre une belle option pour un tirage favorable cet été.
On fait un tour d'horizon des autres sports et de leur actualité de la semaine, Léna.
Et oui, du badminton d'abord avec Thomas Junior Popov qui est en finale donc du tournoi de Madrid. Une belle opération aussi pour lui parce que le tricolore joue sa place au jeu face à son petit frère Christo. Pour l'instant, Christo est toujours devant au classement, mais avec cette finale, Thomas Junior Popov va réduire l'écart de points. Et en athlétisme, Pablo Mateo se qualifie pour les Jeux Olympiques de Paris en 200 mètres. Le sprinteur français termine en 20 secondes et 3 centièmes, record personnel et donc minima olympique. Une bonne nouvelle pour l'équipe de France d'athlétisme. Et du kayak cross, c'est la nouvelle discipline assez spectaculaire d'ailleurs qu'on verra donc cet été aux Jeux Olympiques. Il y avait hier des sélections nationales à Vers-sur-Marne, là où se dérouleront les épreuves des JO. Et chez les femmes, c'est Marjorie Delassus qui s'est imposée. Et chez les hommes, c'est Yanis Triomphe qui porte bien son nom pour le coup.
Ah ben voilà, eh ben on espère qu'il triomphera également à Paris, puisque les épreuves se dérouleront d'ailleurs, c'est pas à Paris, ce sera à Vers-sur-Marne. Mmh. Merci Léna pour toute cette actualité olympique. On vous donnera les résultats évidemment dans l'après-midi des finales de Malonga et de Teddy Riner, engagés donc au Grand Slam d'Antalya en Turquie. Merci Léna. 13h40 sur RMC, on approche de la pause à Lorient, où Lorient et Brest sont opposés pour l'instant, rien de marqué.
marqué, Xavier. La domination plutôt lorientaise.
Oui, la domination lorientaise, hein, clairement. Ça fait longtemps que j'ai pas vu une première période peut-être aussi quelconque de la part des Brestois. Hein. Clairement, c'est pas l'équipe qu'on a l'habitude de voir. Et puis les Lorientais ont eu des situations. Il y a évidemment cette situation de penalty avec d'ailleurs un tweet de Loïc Ferry, alors, en live depuis les tribunes du Moustoir, hein, puisqu'il est dans la tribune présidentielle. Alors, je vous le cite, « Cela suffit, la manière dont le VAR est utilisé est un énorme problème en capitale. Scandale. » Hashtag Ligue 1 Uber Eats et FC Lorient.
On a vu les stats aussi, Lorient, ils ont pas eu de pénalty hein, depuis le début de la saison. C'est la seule équipe
qui n'a pas eu de... Bah, ça ressemble à un tweet de frustration parce que... Ouais. En fait, attention, on va quand même suivre Julien Ponsin. Oh, la frappe de Ponsin, le poteau, la frappe repoussée par le poteau, la frappe puissance de Julien Ponceau, c'est pas terminé, peut-être avec Buonanni à nouveau. Côté gauche, il va tenter le 1-2 dans la surface avec Julien Ponceau. Oh, ils sont malheureux, ils n'ont pas de réussite.
Ouais,
pas de réussite niveau
arbitrage.
Peut-être que Ferry
pour retweeter, dommage qu'on ait quand même pas des poteaux biseautés pour que les ballons entrent mieux dans les buts. Hein. C'est quand même dommage.
Ah, je vais lui souffler.
Ils sont pas carrés, les poteaux.
Ah, ouais, incroyable, en tout cas, énorme occasion encore pour les Lorientais. On revient sur le tweet de Ferry dans un instant parce que Lorient est à nouveau à l'attaque avec Julien Ponceau. On va finalement revenir derrière vers Isaac Touré, vers Yvon Mbogo. Ce qui est étonnant dans le tweet Seb de Loïc Ferry, c'est que le problème dans la situation, c'est pas le VAR, vu que Monsieur Brizard considère qu'il n'y a pas de pénalty en temps réel, considère qu'il n'y a pas de pénalty avec le VAR.
C'est confirmé.
Donc son tweet n'a pas de sens à Loïc Ferry. À la rigueur qu'ils disent la règle des mains dans la surface, c'est un scandale. Là encore, ça pourrait se tenir.
Je pense que c'est de la frustration. Tu l'as très bien dit.
Cette règle n'a aucun sens. Attention parce que Loïc Ferry va peut-être voir rouge. Il y a une situation pour Brest avec le Doiron pour Satriano à l'angle de la surface pour Madi Camara. La frappe de Madi Camara, ça passe largement.
Ah, c'est mal
au-dessus.
Joué de la part de Doiron au départ. Il avait tout l'espace devant lui. Il est parti se remettre là où il y avait du monde.
Il aurait pu prendre effectivement sa chance, Jérémy Le Doiron, sur son pied gauche. En tout cas, voilà, c'est une situation pour Brest, mais Yvon Mvogo n'a vraiment rien eu à faire. Eric Roy va devoir remobiliser un peu son équipe quand même à la pause pour qu'elle montre autre chose.
Dans les circuits de passe, par rapport à ce qu'on voit d'habitude, il se passe quasiment rien. D'ailleurs, on voit des joueurs d'habitude comme Madi Camara qui arrive à se projeter. Ouais. Là, il est quasiment jamais dans la surface. Non, c'est les Lorientais qui font le jeu. Mais pour l'instant, voilà, si les Brestois arrivent à 0-0 à la mi-temps, ça sera déjà pas mal pour eux par rapport aux 45 premières minutes.
Exactement. Il reste 1 minute 30. Attention à la passe de Yongwa pour Julien Ponceau. C'est coupé par Chardonnay avec Bizot pour Lilian Brassier. La 44e, 0-0. À Christophe entre Lorient et Brest. Voilà, et on verra si Loïc Ferry vient à la pause en tribune de presse. Il était venu se plaindre auprès de confrères. C'était lors de l'avant-dernier match au Moustoir. Donc on verra s'il passe dans le coin. Et pour voir si il comprend que son tweet a pas trop de sens. Il l'a peut-être écrit un petit peu trop vite, Loïc Ferry.
Ah ouais, quand on est un peu sur le coup là, un peu nerveux et un peu frustré, évidemment, de voir son équipe dominer comme ça depuis le début de ce match et de ne pas pour l'instant réussir à prendre un avantage. On rappelle que Lorient n'est pas encore sauvé. Hein.
Ah, loin de là, ils sont dans une situation quand même beaucoup plus intéressante que, oui. qu'avant la trêve hivernale. Ils ont bien réagi. Mais c'est vrai que il y a toutes ces équipes qui doivent encore se sauver. Et ce genre de match-là, quand il y a des opportunités comme ça, parce que c'est vrai qu'ils devraient être devant là, quasiment à la pause. Ils ont, c'est quand même eux qui ont eu les meilleures occasions. Mais en tout cas, dans le jeu, dans les ambitions lorientaises, ça n'a rien à voir avec l'équipe qu'on avait vue lors des matchs allés.
Non, clairement, ça n'a rien à voir. On voit que Lorient s'est bien remis d'aplomb. Pour l'instant, ils font un vrai bon match avec un coup franc dégagé dans la surface de réparation par les Brestois. Alors, sur les coups de pied arrêtés, pour l'instant, Brest arrive bien à centraliser les ballons. Que ce soit Chardonnay ou Brassier, il y aura du temps additionnel. Il y en aura pas mal, je pense.
Une minute,
étonnant.
Étonnant,
vu,
parce que
l'arbitrage vidéo qui avait pris du temps.
La VAR, ça avait pris du temps quand même.
On n'y comprend plus grand chose, hein, non plus. Dans ce temps additionnel
en début de saison, on rappelle, on a eu des temps additionnels, mais surtout en fin de match, ça avait des 7, des 8 minutes. Ça s'est un peu calmé là aussi, hein, de ce côté-là même, en fin de match. Hein.
C'était abusé quand même, par contre.
Oui, c'était vraiment abusé, oui.
Clairement, ça n'a. Voilà, on comprend pas trop comment c'est établi. En tout cas, il reste donc 1 minute, donc quelques secondes. On va pouvoir suivre la fin de cette première période. 0-0 entre Lorient et Brest. un derby qui n'est pas exceptionnel dans le jeu, si ce n'est Lorient qui fait plutôt de bonnes choses. Par contre, il est électrique, hein, comme on pouvait s'y attendre, avec un air de revanche.
Il n'y a pas eu de carton de sortie,
voilà.
Non.
Alors, voilà. Bah, il y a eu le carton rouge pour Cahuzac.
Il
y a eu le carton rouge pour Cahuzac. Et là, le carton jaune pour Kenny Lala, avec effectivement les bras là, sur le haut du corps de Mohamed Bamba. Il l'a bien projeté au sol. Kenny Lala, ça va donner un dernier coup franc en faveur des Lorientais. Avec Ponceau et Magnetti là qui.
C'est Pereira Lage hein, qui a fait la faute. Alors, je sais pas
si. Pereira Lage, mais c'est Pereira Lage qui prend le carton. Autant pour moi, c'est Kenny Lala protesté à côté. Et j'ai cru que c'était lui qui prenait le carton.
C'est peut-être le meilleur Brestois, je trouve, sur la première mi-temps, Pereira Lage, par rapport à ce qu'il a proposé. S'il y en a un à sortir du côté de Brest.
Ouais, il a fait beaucoup d'appels en profondeur. Hein. C'est vrai, il a donné des solutions pour que son équipe avance. Effectivement, sinon, les autres se sont un petit peu cachés. On a vu notamment les défenseurs aussi vigilants et Marco Bizot, hein, parade énorme, réflexe tout à l'heure, il était sur les fesses, il a réussi à détourner une frappe, main gauche, le coup franc de Ponceau. On va aller chercher évidemment la grande taille de Adjei, de Nathaniel Adjei et d'Isaac Touré, et ce sera la mi-temps sifflé par Monsieur Brizard. 0-0, Loïc Ferry est peut-être déjà dans le couloir à attendre Monsieur Brizard. On va suivre ça de près. 0-0 donc entre Lorient et Brest.
Merci Xavier. Voilà, bon, on espère que la deuxième mi-temps sera plus riche en buts, évidemment. Pas beaucoup d'occasions dans cette première mi-temps. Et effectivement, les Brestois semblent plus vraiment au niveau où ils étaient il y a quoi ? Il y a un mois seulement, hein, même pas ?
Ouais, ils ont subi hein, sur cette première période. On les a vus plutôt bas pour leur ligne de récupération de ballon, et puis c'est surtout les Lorientais, je trouve, qui ont été intéressants, à l'image de Boinani dans son positionnement souvent entre les lignes, assez juste techniquement. Mais on les a vus aussi à des matchs où ils maîtrisaient moins, les Brestois, et finalement bah, ils arrivent, c'est souvent on parle de saison comme ça où tout leur sourit. Voilà, bah, ils doivent être quand même assez contents et satisfaits de rentrer à 0-0 à la mi-temps.
Très bien, la deuxième mi-temps à suivre dans quelques minutes sur RMC. On suit également cet après-midi le Tour des Flandres. Alors on est encore assez loin de l'arrivée, hein, parce que plus on va se rapprocher, plus on ira retrouver Arnaud Souk et Cyril Guimard qui observent la course et l'analyse. On est encore à un peu plus de 110 km de l'arrivée, hein, Arnaud, pour l'instant.
Ouais, et déjà, alors une première flash hein, lancée par Alpecin Phoenix. En fait, c'est Johan Abrahamsen hein, qui est sorti du peloton. Il a été pris en chasse par le coéquipier de Mathieu Van Der Poel, Axel Laurence. Les deux hommes sont sortis en contre à 112 km de l'arrivée il y a quelques instants, 2 minutes 25 toujours pour les 8 échappés matinaux dont le français Damien Touzet. Et du coup, bah c'est pas si mal joué que ça, parce que ça oblige derrière notamment les Jumbo, les Visma pardon, les Subike et les Ineos à rouler en tête de peloton pour essayer d'aller chercher, pour éviter que ce contre de Abrahamsen et de Axel Laurence ne prenne trop d'ampleur. Donc voilà, déjà peut-être une première indication aussi sur la tactique d'Alpecin Phoenix, qui ne va pas s'en laisser à si bon compte. On vient de franchir le troisième des 17 monts du jour, en l'occurrence le Wolfenberg, qui n'est pas un mont pavé. En revanche, dans quelques instants, on aura deux secteurs pavés qui vont se succéder.
Retrouvez le meilleur du cyclisme sur RMC avec Total Energy. De l'électricité et des services pour maîtriser votre consommation.
L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Cyril, un tout petit mot d'Axel Laurence, que le grand public connaît encore assez peu. C'est un jeune coureur français qui a effectué un très beau début de saison, qui est récompensé justement en étant sélectionné aujourd'hui. Et il prend la place de Philippe Sen, qui a préféré ne pas prendre part. Voilà, c'est un jeune sprinter, un jeune garçon assez complet, qui est sans doute l'avenir, un des garçons qui peut signer l'avenir du cyclisme français. Hein.
Oui, on peut pas parler d'un vrai sprinter, mais il va quand même relativement vite, surtout sur des arrivées difficiles, c'est-à-dire dans des côtes. Et n'oublions pas que l'an dernier, il a été champion du monde en réalisant un véritable exploit, surtout dans les 25 derniers kilomètres. Il s'est déjà imposé deux fois cette année, ça n'est quand même pas un hasard. Et puis le fait qu'il se retrouve là, et en plus passant carrément à l'action, ce qui veut dire, comme le disait Monsieur Souk, eh bien la stratégie de Alpecin, c'est pas bien de sûr défendre coûte que coûte, c'est d'envoyer des coureurs à l'avant. Et dans ce jeu-là, eh bien Axel est très 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 utile, et puis ça montre aussi qu'il soit dans cette équipe au départ du Tour des Flandres, ça veut quand même dire quelque chose.
Exactement. Je me permets de rajouter juste un tout petit mot, Christophe, parce qu'il a été rattrapé avec Laurent. C'est derrière, on a vu, c'est Matteo Jorgensen notamment qui avait mené la poursuite dans le Wolvenberg et qui en a profité pour contrer, entre guillemets, en tout cas pour étirer le peloton. Les Visma Lissebike qui ne vont pas aujourd'hui être là en observateur de la République. On a bien l'intention de secouer le cocotier d'Alpecin Phoenix. Un tout petit mot également d'un Français qui est bien placé, Julien Alaphilippe, dans les toutes premières positions du peloton.
L'observation de la monarchie. Là, tu parles de la République en Belgique, tu vas te faire des ennemis.
Oui, tu m'as compris, la République du vélo.
J'ai compris, c'était pour te vanner un petit peu de temps en temps. Il faut bien s'entraîner avant le Tour de France, autrement on va arriver un peu à sec. Il faut qu'on commence à chambrer. Allez, à tout à l'heure. 13h51 sur RMC, 111 km de l'arrivée de ce Tour des Flandres et la pause à Lorient, 0-0 entre Lorient et Brest, vous le savez, ce soir. Il y a un petit match OM-PSG. On va continuer d'en parler tout au long de la journée. Une journée spéciale sur RMC. À tout de suite.
RMC Intégral Sport.
Christophe Cessieu.
13h58, vous êtes sur RMC. On attend le retour des deux équipes lorientaises et brestoises sur la pelouse du Moustoir pour la deuxième mi-temps. À la pause, eh bien, les deux équipes se sont quittées sur un score nul et vierge 0-0 avec quand même une domination lorientaise durant ce match. Et puis l'énervement du président lorienté, Loïc Ferry, qui n'était pas content que la VAR n'ait pas accordé un pénalty lorienté. Il y avait péno, il n'y avait pas péno, Seb?
Pour moi,
tu nous as dit qu'il n'y avait pas péno, le ballon avait touché le haut du bras.
Et donc, le ballon était trop haut. Alors, c'est vrai que sur l'action en direct, peut-être que comme le bras était quand même... n'était pas collé au corps, mais en tout cas le ballon est venu toucher le haut de l'épaule, donc bon, pour moi il n'y avait pas pénalty.
Pas péno, et donc ça a énervé le président de Lorient. 13h59, est-ce qu'on est énervé sur le Tour des Flandres, Arnaud Souk, Cyril Guimard?
On est un petit peu énervé, je te confirme, vitesse moyenne 46 km/h pour l'instant. Faudrait pas qu'on arrive avant l'horaire prévu par les organisateurs de 16h30. Les 8 hommes de tête qui sont donc toujours en tête, qui sont dans le 5e secteur pavé du jour, on est à 105 km de l'arrivée. Cela veut dire que dans 5 km, on va aborder les pentes du Molenberg, mont pavé, 14,2%. Attention, le bas est très cabossé, ça risque de mettre pied à terre. Ces 8 hommes ont 1 minute et 40 secondes d'avance sur un peloton dans lequel, attention, Mathieu Van Der Poel est un petit peu esselé. Il est un petit peu esselé, pourquoi? Parce que crevaison il y a quelques minutes de son, on va dire, de son coéquipier le plus fidèle, ou en tout cas de celui qui est censé l'amener le plus loin aujourd'hui, Soren Krabb Andersen qui est en train de revenir dans le peloton. Mais il y a eu un petit imbroglio parce que Sylvain Dillier, un autre coéquipier de Mathieu Van Der Poel, était juste derrière lui. Il a proposé d'échanger le vélo, mais sauf que les deux hommes ne font pas tout à fait la même taille, et donc Soren Krabb Andersen a été obligé d'attendre la voiture des directeurs sportifs qui était très très loin. Il a perdu 45 secondes dans l'affaire, mais à l'instant on le voit, Soren Krabb Andersen qui réintègre l'arrière du peloton, un peloton dans lequel on observe également la présence de Valentin Madouas qui a tout à l'heure failli être pris dans une chute. Il a mis une main à terre, mais il a réussi à s'en sortir. Un peloton dans lequel on voit également que Mats Pedersen, vainqueur de Gent Wevelgem la semaine dernière et qui a chuté sur à travers la Flandre en milieu de semaine, est plutôt en bonne forme. Pour l'instant, ça a du mal à se décanter, mais ça roule très très vite. Et attention donc à ce fameux Molenberg dans quelques minutes.
Intéressant ce que nous disait Arnaud il y a quelques instants, Cyril, concernant les changements de vélo quand tu as une crevaison. Il faut avoir un équipier à tes côtés, évidemment, pour te dépanner le plus vite possible. Et qui plus est, un équipier qui te ressemble physiquement, c'est-à-dire qui a à peu près la même taille. Si t'as un mec, garde du corps, un mec d'1m30 pour 2m, ça va être compliqué. Hein, donc il faut faire attention à ça aussi.
Oui, il faudra avoir que des jumeaux.
Ouais. Ça va arriver un jour. Hein. Un peu de génisme dans le vélo.
C'est arrivé. Hein. Oui, alors c'est. C'est très compliqué maintenant de faire des changements de matériel entre coureurs, ne serait-ce que par la présence des disques sur les vélos, puisqu'il faut une clé ou une perceuse, enfin pas pour percer, mais pour faire en sorte de visser ou dévisser, puisqu'on n'a plus de blocage comme il y avait auparavant. Donc déjà changer de roue, c'est pas possible entre deux équipiers. Reste que le changement de vélo, sauf que pour ça, effectivement, eh bien il faut pas avoir 15 cm d'écart, parce que ça le fait pas, surtout sur une course comme le Tour des Flandres ou Paris-Roubaix, parce que vous pouvez dépanner beaucoup plus tard, donc de toute façon vous sautez. Donc là, derrière, la course s'est un peu calmée, puisque tout le monde savait que, enfin tout du moins les équipiers de Sylvain Dillier et de Craig Andersen étaient au courant donc du problème. Et alors que la bagarre était lancée, pendant quelques kilomètres, tout s'est calmé et maintenant c'est reparti. Alors est-ce que l'ensemble des coureurs qui avaient été pris dans les accrochages et les deux sont revenus? Apparemment, oui.
On n'attaque pas les grands leaders comme ça, même à 100 kilomètres de l'arrivée. Non, il faut, on respecte tout ça.
Ah, mais si, ouais. si, mais ce serait une erreur.
Eh ouais.
Ce serait une erreur parce que si vous vous mettez à attaquer, parce qu'il y a deux équipiers de Van Der Poel qui sont à l'arrière, c'est pas Van Der Poel qui va rouler, c'est-à-dire que vous allez faire rouler vos équipiers et vous allez faire le jeu.
Eh bien sûr.
Le jeu de Van Der Poel. En l'amenant le plus près possible des points stratégiques sans qu'il donne un coup de pédale et sans que ses équipiers qui sont encore là ne donnent aussi un coup de pédale. C'est-à-dire que vous voyez, c'est très vicieux ce genre de choses. Si vous vous mettez en route, vous vous mettez en danger.
D'accord. Voilà les explications du druide. C'est pour ça qu'on l'appelle le druide, parce qu'il sait tout nous expliquer à la perfection. À tout à l'heure, les garçons. 14h03, c'est reparti au moustoir, Xavier. Est-ce que oui. Tu as vu le président Ferry? Est-ce qu'il est venu
Non, il n'est pas venu. Il n'est pas venu.
Il
s'est senti
un peu bête.
Ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il a parlé, s'il a essayé de parler à M. Brizard à la pause dans le couloir des vestiaires. En tout cas, il était frustré, très certainement, parce que c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Lorient faire autant de jeux, peut-être à domicile. Vraiment une première période très réussie, mais toujours 0-0 avec les plus grosses occasions. On le rappelle, avec une frappe de Boinadi repoussée par Bizot, le poteau de Julien Ponceau juste avant la pause, et cette situation avec la main de Chardonnay dans la surface, avec un pénalty qui n'est pas donné par Monsieur Brizard, d'abord à vitesse réelle et ensuite avec arbitrage vidéo. Les Lorientais à nouveau à l'attaque pour démarrer cette deuxième période. La remise de la tête de Katseris dans la surface, dégagée par Brest. Et on va voir si les Brestois vont un petit peu se remettre dedans, parce que leur première période est quand même très très moyenne, avec peut-être du changement aussi, puisqu'il y a un petit peu de banc, notamment Romain Del Castillo qui pourrait entrer en jeu, ou encore Steve Mounier. Le ballon dans les pieds de Boinani, avec Adjei dans le défenseur central pour Isaac Touré, qui va pouvoir remonter dans la ligne, au niveau de la ligne média. Labergel, le capitaine, qui la redemande. On va passer côté droit vers Katseris à nouveau pour Labergel, et tous les Brestois qui sont dans leur moitié de terrain pour attendre les Merlus. La 48e, 0-0.
Bon, Boinani, c'est vraiment l'électron libre un petit peu là de cette équipe, hein. Il se déplace beaucoup et je trouve qu'on essaie beaucoup de le trouver. Et après, ouais, c'est vrai que les Brestois, ça, on redémarre un peu dans la même configuration que la première période. Je pense qu'aujourd'hui, même si j'étais un peu surpris de voir que c'était 50-50 au niveau de la possession,
ouais.
Je pensais que les Lorientais avaient un peu plus le ballon. Mais c'est vrai que voilà, c'est une équipe qui a besoin quand même de se montrer un peu plus dangereuse, et puis surtout dans la projection, quoi. C'est ce qui manque à cette équipe de Brest là, depuis le début du match, à l'image normalement des milieux de terrain qui se projettent un peu plus. Là, c'est quasiment que des ballons dans les pieds. Ils n'ont jamais été dangereux, en fait, lors de la première mi-temps.
Alors, c'est vrai que Del Castillo va pouvoir entrer, je pense, dans pas trop longtemps. Il y a Kamori Doumbia aussi, l'auteur du quadruplé, hein, du match aller, le Malien, qui peut entrer en jeu pour amener de la profondeur et du danger. Après, il faudra voir. Est-ce qu'ils vont être un peu calculateurs aussi, hein, les Brestois, parce que...
Et voilà, puis, t'as pas ta rampe de lancement. Pierre Lesmelou, dans jeu court, jeu long, voilà, c'est pas Jonas Martin.
La frappe qualités. Du gauche de Boinani, captée par Bizot, mais Bruno Grou que j'ai rencontré cette semaine jeudi pour RMC Sport, vous pouvez retrouver ça sur le site, disait aussi que faut pas s'enflammer si on est dans un jour sans, si le jeu est moins bon, être un peu plus calculateur dans cette fin de saison et prendre un point s'il le faut.
Lui,
et bien,
le joueur qu'il était en plus, très joueur, Bruno Grugy, oui. Si c'est lui qui le dit en plus,
c'est vrai, donc c'est vraiment pour dire, donc peut-être que Brest ne va pas se jeter à l'abordage. On va voir ça. En tout cas, c'est Lorient qui a le ballon en début de deuxième. La 49e, 0-0.
Très bien. 14h06 sur RMC. Le Tour des Flandres. On est à 100 km pile poil de l'arrivée, Arnaud. Et on aborde un nouveau mont pavé du Tour des Flandres. Et pas n'importe lequel.
Le quatrième, mon cher Christophe, c'est le Molenberg, un mont pavé. Je vous disais, c'est extrêmement cabossé au début. On l'a vu avec les échappés il y a quelques instants qui l'ont abordé, 1 minute 34. À l'instant, c'est au tour du peloton de l'aborder avec les Lidl Trek qui ont pris le lead dans ce mont. Et vous allez voir, si vous avez les images sous les yeux, quand on est mal placé, quand on est à l'arrière, eh bien, on perd déjà beaucoup de temps. On perd déjà beaucoup de temps parce qu'on est obligé de mettre pied à terre. Et puis après, c'est dur de remettre la pédale dans la cale et de repartir. Mais en tout cas, ça a choisi du côté de Mats Pedersen. de secouer un petit peu cette course. Et peut-être déjà une première banderille plantée par Mats Pedersen, l'ancien champion du monde, qui a dans sa roue un coureur de l'équipe Visma Liseba avec Mathieu Van Der Poel en troisième position. On aperçoit également Stéphane Kung. On est à 100 km de l'arrivée et déjà Pedersen qui peut-être a été pas en grande forme cette semaine après sa chute, qui disait avoir pris 3 ou 4 kilos d'eau, à faire de la rétention. Peut-être que c'est aussi un aveu de faiblesse. En tout cas, il est suivi très facilement dans la roue par Matteo Jorgensen. Il y a Mathieu Van Der Poel également qui est là, et j'avais vu Julien Alaphilippe bien placé. En tout cas, voilà les hostilités qui sont lancées, et Mathieu Van Der Poel qui se sent d'emblée obligé de répondre. Une dernière petite chose, grosse chose même, elle est d'importance, il commence à pleuvoir sur la route du Tour des Flandres.
Oh là là, bah là on va se régaler de la pluie, des favoris qui se dévoilent, et un Mats Pedersen qu'on disait râpé de partout, Cyril, et qui montre que finalement il a plutôt pas trop mal récupéré de sa gamelle. Alors Arnaud disait c'est peut-être un aveu de faiblesse, comment tu analyses ça?
Bah, il a besoin de se rassurer aussi, de voir si s'il y a de la force, s'il y a pas des petites douleurs qui peuvent revenir, parce qu'on prend des coups ça, dans une chute telle que celle dont il a été victime. Ça m'impressionne pas obligatoirement, parce qu'on a besoin de se rassurer et de voir que ça va bien. Après, il va se remettre un petit peu plus sur, non pas la défensive, mais il va rentrer dans le système de course en se disant, bah, finalement, je suis bien, je peux jouer la gagne. Ouais. Mais moi, il y a un homme qui m'impressionne beaucoup et dont on ne parle pas suffisamment, c'est Jorgensen, qui avait terminé 9e du Tour des Flandres l'an dernier et qui fait une grosse impression
à travers la Flandre.
Il saute sur tout ce qui bouge. Ouais, ouais. Et sur Paris-Nice, c'était impressionnant. Qu'il a gagné Paris-Nice en sautant sur tout ce qui bougeait, et notamment sur Remco Evenepoel. Dès qu'il a attaqué, il était dans sa roue et t'avais l'impression qu'il était d'une sérénité à toute épreuve. Attention au Visma Liseba-Bike, de manière générale.
Parce que même quand ils perdent un leader, ils en ont toujours 2-3 de rechange en réserve de la République ou de la Monarchie, ça dépend des jours.
Van Der Poel est scellé, Van Der Poel est scellé. Attention, parce que les Visma Liseba-Bike, là, ils essayent de contrer. Il y a un coureur qui est parti, pris en chasse par un équipier de Stéphane Kung à la Groupama FDJ, et Mathieu Van Der Poel, lui, il est un petit peu en train, je pense, d'attendre. Alors qu'est-ce qu'il fait Mathieu Van Der Poel? Je suis quand même étonné qu'il soit quasiment à l'arrêt sur ce coup-là. Il doit attendre peut-être certains de ses coéquipiers. C'est en tout cas une situation assez étonnante de la part de Mathieu Van Der Poel, qui a choisi de ne pas suivre ce qui se passait devant et de se laisser glisser dans un deuxième groupe, les quatre là qui sont partis. Dans ces quatre là, on a donc deux Visma Liseba-Bike. Je pense que il y a Timo Hellens qui est dans ce groupe. On a également Tijs Benoot et Perstrand Agnes, ils vont se faire rattraper dans quelques instants.
Très bizarre ce que fait Van Der Poel, et il s'est dépassé par tout le monde là, j'ai l'impression, tous les groupes qui reviennent.
Il est quasiment en queue de son groupe.
Il attend des équipiers, Cyril, c'est ça?
Oui, non, il faut qu'il laisse rentrer dans l'immédiat. Il peut pas lui sauter sur tout ce qui bouge, sinon il va mourir avant l'arrivée. Donc là maintenant, il se recale, il attend que des équipiers reviennent. Ils ont déjà beaucoup travaillé, puis on l'a dit, il a deux équipiers et pas n'importe lesquels qui ont eu des problèmes de crevaison et des problèmes matériels, et il faut attendre que tout le monde revienne. Il y a pas le feu, on est à 97 km de l'arrivée, et puis dans quelques temps, on va arriver sur les vraies grosses difficultés où il faudra être présent.
Alors pour l'instant,
faut qu'il laisse rentrer.
D'accord. Donc la tactique de Van Der Poel, c'est de laisser rentrer et de récupérer des équipiers qui sauteront sur les frelons qui m'ont l'air en grande forme. Ils ont perdu Van Aert, mais les frelons, ils ont une reine qui multiplie comme ça les petits frelons. Il y en a partout, du jaune sur la route de ce Tour des Flandres. Et à mon avis, ils nous réservent un petit quelque chose pour tout à l'heure. À tout à l'heure, justement, messieurs, nous repartons en attendant à Lorient, Lorient-Bresse. On attend toujours ce but. Qui pourrait faire la différence. Pour l'instant, 0-0, Xavier.
Oui, la 54e, 0-0, et on est reparti un peu sur les mêmes bases avec des Lorientais qui ont le contrôle du jeu et qui, eux, essayent d'aller chercher le match. Pour l'instant, Brest est toujours prudent sur ce début de deuxième période, avec le Douaron qui va être tranquillement pris par Isaac Touré, le ballon à nouveau pour les Merlus. Ils ont même largement plus le ballon qu'en première période, les Lorientais.
Les Brestois toi sont même encore plus bas et, oui. Et le truc c'est que bah, ils récupèrent de moins en moins vite le ballon et quand ils le récupèrent de toute façon ils n'ont pas de solution. Il y a que Satriano qui reste un peu en pointe mais il n'arrive pas à être touché. Moi je pense qu'il va pas tarder Eric Roy à faire 2-3 changements. Ouais. Ouais, je pense, ouais.
Bah, il presse moins qu'en première, alors est-ce que c'est aussi une consigne qu'a donné
peut-être
Eric Roy
aussi,
à la pause,
ouais, peut-être pour profiter des espaces mais en ouais. tout cas personne prend l'espace donc
Ouais, on a l'impression de voir un stade brestois peut-être un peu plus calculateur là cet après-midi, qui vont peut-être pas aller forcément chercher la victoire, mais avant peut-être essayer de prendre un point. Et un point, faut pas. Je vais faire l'épicier là, aller sur les 15 prochaines secondes.
Tu vas pas t'y mettre toi aussi. Hein.
Non, mais s'ils prennent un point face à Lorient, bah ils reprennent un point de plus sur le 7e, sur le 6e Lens et sur le 7e, que ce soit Marseille ou Rennes, parce que si Marseille ou Rennes gagnaient, ils auraient le même nombre de points que Lens, donc ils auraient un point de plus sur les places non européennes, donc ce serait un bon week-end finalement pour Brest.
Après ils ont un calendrier aussi mis à part c'est Metz peut-être le prochain
ils
match
ont Metz à domicile,
mais après ils ont trois
Monaco,
gros matchs,
ouais, ils ont ouais. Monaco, Rennes,
il y a Lyon
et Lyon également, mm-hmm. ils ont deux gros matchs sur les trois suivants. C'est d'ailleurs pour ça que Grougy tout comme Eric Roy ne veut pas parler d'Europe avant les 4 prochaines journées. À 4 journées de la fin, allez promis,
ah,
là on
trop.
Le dira.
On dirait Guillaume.
Oui, c'est ça. 0-0, ouais. La 56e, l'ouverture de Boinani, il va côté droit. Il y a peut-être Yongwa là, qui peut aller percuter. Il y a Kenny Lala qui va se mettre juste devant lui. Il y a Ponceau qui a proposé. Il va peut-être pouvoir dédoubler avec Yongwa. On va revenir derrière vers Isaac Touré. Est-ce qu'on peut mettre un ballon dans la boîte? Mais il n'y a que Bamba qui est un petit peu seul. Donc Bakayoko va changer. On va passer côté droit. Elle n'est pas bonne. Ouverture à Bakayoko et Katseris ne va pas réussir à la sauver. 0-0 la 56e.
Retour sur la route du Tour des Flandres à 96 km de l'arrivée. On a vu un petit Français pointer le bout de son bouc et de sa moustache là.
Alors pointer le bout de son nez, oui et non, parce qu'en fait il n'était pas dans le groupe dans le Molenberg. Tu me parles évidemment de Julien Alaphilippe, oui. Mais Julien Alaphilippe malgré tout qui a réussi à faire le saut après avoir été dans le mauvais wagon dans le
Molenberg.
Il est plutôt présent depuis le début de la course. Julien Alaphilippe, c'est plutôt positif. Il me le disait l'autre jour quand je l'ai rencontré, qu'il avait les jambes et qu'il allait faire le maximum, même s'il ne s'attendait pas à un miracle aujourd'hui. Il se ressent encore d'une chute qu'il a subie sur l'Estrade Bianche. Il en parle pas trop, mais voilà, il sait qu'il a les jambes et pour autant il a un petit souci à une jambe dont il veut pas trop, sur lequel il veut pas trop s'épancher, mais sur les pavés ça risque de faire quand même un petit peu mal aujourd'hui. Mais en tout cas il a l'air d'être là. La situation de course à 95 km de l'arrivée, on a toujours nos échappés qui ont 20 secondes d'avance désormais. Bref, ça va pas tarder à batailler sévère, on va dire.
On l'espère hein, Cyril, on l'espère évidemment, parce que là on sent que tous les leaders, tous leurs équipiers sont sur le qui-vive prêts à faire partir les pétards de tous les côtés sur la route du Tour des Flandres.
Ben, on est à moins de 100 km et je trouve déjà que la bagarre, que la course est très animée. Si on regarde actuellement, vous avez 5 groupes pratiquement et le gros peloton qui se trouve pratiquement à 40-50 secondes de la première du premier groupe dans lequel il y a déjà quelques favoris et là je pense que la course va prendre un tournant absolument bizarre. On est dans une course où on a des tentatives, des groupes qui partent et des vrais leaders qui bougent pas. Ça va être amusant. Amusant. On va arriver dans le Berendries, dans quelques kilomètres. Le Berendries qui est un des monts sur lequel la différence pourrait se faire et qu'un groupe pourrait s'en aller.
Arnaud, tu peux très rapidement, on a un groupe là justement qui est parti quand même avec du beau monde. On a dans ce groupe notamment Niels Politte, on a Mats Pedersen, on a Tiche Benoot, je pense avoir aperçu également Dylan Van Baarle dans ce groupe. Donc voilà, vraiment du beau monde et forcément l'obligation derrière pour Mathieu Van Der Poel et les équipiers d'Alpecin Phoenix, même s'il a placé une flèche justement dans ce groupe Mathieu Van Der Poel, eh bien de rouler pour tenter de refaire son retard. Et le Berendries, tu le disais, qui arrive dans désormais 2 km, c'est 1 km de pavé à 12,3%.
Eh bien, on revient dans un instant pour vivre cette ascension. Dans un instant sur RMC, les 14h16, 0-0 entre Lorient et Brest et 94 km de l'arrivée du Tour des Flandres. A tout de suite.
RMC Intégral Sport,
Christophe Cessieux.
14h18, vous êtes sur RMC. On se régale cet après-midi. Il y a du foot, il y a du vélo, il y a un classique ce soir. Il y a d'autres matchs qui vous attendent à partir de 15h. On va suivre Clermont-Toulouse, Le Havre-Montpellier, Nice-Nantes. On en parlera dans un instant. Et puis à 17h, Strasbourg-Rennes. Et puis ce soir, en apothéose, l'Olympique de Marseille face au Paris Saint-Germain. Match à suivre avant match, after, libre antenne jusqu'à 1h du matin.
Il y a aussi un City-Arsenal.
À 17h30, qui est pas mal, qui est un vrai classique du championnat anglais, sauf qu'à la différence d'une autre, il n'y a qu'un point qui sépare Arsenal de City.
Il y a Liverpool
quand même,
qui est là aussi.
Et il y a Liverpool. Ah, mais c'est autre chose, la Première Ligue quand même. En termes de suspense pour le titre, c'est quand même plus intéressant. Il nous faudrait quand même plusieurs milliardaires qataris ou des Émirats Arabes Unis pour essayer de faire la concurrence au Paris Saint-Germain. C'est pas le cas. C'est vrai que le PSG domine largement les débats. Alors, comment il s'appelle celui-là de Mont, messieurs,
dans le Père Andries, on a un kilomètre pavé avec un max à 12,3%. Je vous rappelle la situation de course. On a un coup là qui est parti devant et un coup quand même qui est très très joli parce que on a Ben Turner, on a Oliver Nyssen, on a Nils Polit, on a Tish Benoot, on a Gianni Vermeersch notamment dans ce coup. Et puis derrière, on est obligé de contrer. On voit Mathieu Van Der Poel qui commence à prendre la direction des opérations et qui arrive à l'instant avec 20 secondes de retard sur le groupe de tête dans le Père Andries avec dans sa roue Stéphane Kung, Julien Alaphilippe qui a également fait une très très belle montée de ce Père Andries. Donc voilà, à 91 km de l'arrivée, ce coup qui est parti devant et qui est très très intéressant et qui oblige Mathieu Van Der Poel à réagir, en tout cas à prendre la direction des opérations.
Voilà, c'est le sixième des 17 monts des Flandres.
Je t'ai dit pavé, il n'y a absolument pas de pavé dans le Père Andries. C'est l'un des six qui ne sont pas pavés.
Ah d'accord. Bon, ça, on ne précise pas ceux qui sont pavés ou non, il faut le deviner.
Je vais vous le préciser parce que je l'ai noté sur ma feuille. En
plus. Ah bah oui, tu as fait la reco. C'est magnifique. 91 km de l'arrivée, donc 20 secondes d'avance pour ce petit groupe. Faut quand même se méfier de ce groupe. Il y a du costaud quand même, Cyril, là-dedans. Hein.
Oui, c'est même très dangereux parce que derrière, la poursuite ne s'organise pas. D'abord parce qu'il y a plusieurs équipes qui sont bien sûr représentées à l'avant. Mais Van Der Poel a également un équipier dans ce premier groupe. Ce qui est quand même assez intéressant et qui va obliger certaines équipes à rouler. Et on a vu par exemple que la FDJ était un petit peu nerveuse il y a à peu près 20-25 secondes. Il ne faut quand même pas perdre de temps sur ce groupe. Mais la présence d'un équipier de Van Der Poel lui permet de rester en retrait et d'attendre que...
Oui, enfin en retrait, Cyril, on a vu quand même que dans le Père Andries, il a fait la montée en tête. Hein. Il a quand même monté assez rapidement. Il a réussi à rattraper Kung et Alaphilippe qui était sorti. Un groupe de 13 coureurs. Hein. Il y a beaucoup de.
Oui, il est obligé quand même d'accompagner les contres qui partent. Parce que s'il le fait pas, c'est un contre qui va partir, qui va revenir devant, et là derrière, il sera mort. Donc il est obligé de contrôler en tête de peloton pour ne pas laisser ressortir justement des coureurs comme Kung par exemple. Kung qui est aussi très fort, excellent rouleur, et on connaît son potentiel, donc il est obligé de réagir sur les autres leaders qui sont piégés. Il faut qu'il en fasse des prises de ses prisonniers pour qu'à un moment vont faire rouler leurs équipiers pour revenir à l'avant. Lui, il a un équipier devant, donc il bouge pas.
La tac-tac-tac-tic du Doris.
J'ai omis de vous, excuse-moi Christophe, de te couper dans ta chanson magnifique qui est très actuelle hein, comme chanson. Il y a Matt, mais ça m'étonne pas de toi. Matt Pedersen également dans ce. Dans ce groupe de
jeunes.
Il fallait bien que je t'en mette une petite. T'as dit, il faut commencer les blagues, il faut concentrer avant le Tour de France.
Je suis pas encore chaud là, je suis pas encore chaud, t'inquiète. Je vais bientôt répliquer. Ok, bon, maintenant tu te tais. Maintenant on va passer au foot. À tout à l'heure, Arnaud, à tout à l'heure, Cyril. Lorient-Brest, bon, on commence à désespérer but, Xavier.
Il y a eu des changements là.
Il y a eu des changements et voilà, tout va bien. C'est des joueurs de ballon qui sont entrés du côté de Brest avec l'entrée de Del Castillo et de Doumbia. Attention, Del Castillo justement qui va lancer Satriano pour l'un de ses premiers ballons. Del Castillo à la place de Le Douaron et Camori Doumbia à la place d'Hugo Magnetti. Donc Tremblay l'Orientais, Camori Doumbia quadruplé au match aller pour le jeune malien prêté par Reims, dont un troisième but exceptionnel, hein, une reprise de volée. Seb, tu t'en souviens, tu étais là au multiplex juste avant Noël, une reprise de volée à l'entrée de la surface. Le geste était splendide, la puissance, il y avait tout. Doumbia qui était dans un jour incroyable pour un joueur qui est encore méconnu, hein, mais qui a beaucoup de talent. Donc on va voir comment les Brestois vont s'organiser. On voit déjà que Del Castillo, il demande le ballon. Hein. Dès qu'il y a une remise en jeu comme ici, là, il va tenter de centrer, sorte de centre-tir capté par Yvon Mvogo. Est-ce que Brest va être un peu plus généreux?
Quand t'es papa comme ça, il y a une certaine euphorie aussi.
Ah ouais,
il y a de la fatigue, mais non, c'est vrai. J'avais joué moi un match.
T'avais marqué un but, t'avais
non,
dédié ça.
Non, mais je me rappelle, je crois que c'était contre Nantes d'ailleurs avec Bastia.
Ah ouais, en plus, tu marques contre Nantes.
Non,
tu...
je marque pas, mais j'avais fait un bon match. Et c'est vrai qu'il y a une certaine euphorie parce que forcément, c'est quand même un événement marquant.
Oui.
Et donc là, il y a peut-être de la fatigue, mais là, avec le talent surtout en plus de Del Castillo, je serais pas surpris qu'il soit décisif. Je ne souhaite pas l'orienter, hein, parce que ça serait forcément.
Del Castillo, justement, servi par Jonas Martin. Le centre, le bout du pied d'Isaac Touré. Heureusement, parce qu'il y avait Madi Camara qui était bien placé derrière. Del Castillo à nouveau avec Jonas Martin. Ça joue un peu plus vite déjà. Il accélère le jeu, évidemment. Romain Del Castillo, le centre de Jonas Martin, taclé à nouveau par Isaac Touré. Ce sera un corner pour les Brestois. Corner tiré justement par Romain Del Castillo. Meilleur buteur, meilleur passeur hein, de Brest. 5 buts, 5 passes. Lui qui a joué, il a été titulaire sur 25 des 27 journées. Romain Del Castillo, lui qui a pourtant souvent été blessé hein, les saisons précédentes, il a enfin trouvé physiquement aussi une régularité également dans le jeu. Le corner dégagé, ça reste finalement dans la surface. Attention, ça traîne dans la surface de réparation avec finalement repoussé. Ça revient sur Doumbia pour Bradley Loco. On va ouvrir côté gauche vers Madi Camara. La bonne séquence pour le Stade Brestois. Kamori Doumbia qui va pouvoir donner dans l'axe vers Kenny Lala. Kenny Lala qui va repiquer intérieur et peut-être insister côté gauche. Les Lorientais qui reculent et peut-être un centre de Madi Camara. Le centre justement de Camara de par Doumbia repoussé. La frappe de Kenny Lala, ça passe au-dessus. Début d'Mvogo, 0-0, la 68e, double changement à venir du côté de Lorient avec Théo Lebris et Eman Kari qui vont entrer en jeu.
14h25 sur RMC, c'est l'heure du défi hippique.
RMC, le défi hippique.
Chaud, moi j'appelle comme ça. Salut Fred.
Bonjour Christophe, bonjour Sébastien, bonjour à tous. Effectivement, alors, c'est l'heure du défi.
Ah bah oui.
Aujourd'hui, Quintet Plus à 15h15 sur l'hippodrome d'Auteuil avec 18 partants. Donc déjà, c'est pas facile, 18 partants sur la distance de 4400 mètres dans la discipline du steeplechase et en terrain lourd. Et on a notre parieur Nicolas au 32-16. Salut Nicolas.
Et bonjour.
Comment vas-tu?
Et ça va, super, je te remercie.
Bon, quel est ton favori dans ce Quintet Plus ouvert?
Alors, dans ce Quintet Plus, moi, j'ai choisi le numéro 8, imprenable. Et il a été malheureux lors de sa dernière sortie avec une chute. Mais ce pensionnaire de Gabriel Lindert va découvrir les handicaps sur un parcours qu'il affectionne tout particulièrement. Pour moi, il mérite d'être racheté et fait figure de première chance aujourd'hui.
C'est noté. Merci beaucoup, Nicolas. À noter qu'il est à 7 contre 1. On va lui opposer du côté de la Dream Team des courses RMC le numéro 4, Flanker. C'est un concurrent qui a effectué une rentrée victorieuse dernièrement sur les haies. Mais il est également performant en steeple chase, hein, puisqu'il a gagné en fin d'année à Auteuil. Et il est proposé à 8 contre 1 actuellement. Il est performant en terrain lourd. Logiquement, il devrait répondre présent. Je rappelle la règle. Si ton numéro 8, imprenable, termine devant le numéro 4, Flanker, tu seras de nouveau avec demain. Je vous souhaite bonne chance et un très bon quintet.
Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Merci Fred. 14h26, ça bouge dans le Tour des Flandres. On est à 87 km de l'arrivée. Il y avait un petit groupe avec une vingtaine de secondes d'avance dont ne faisait pas partie Mathieu Van Der Poel. On l'a vu bouger là, Arnaud, le champion du monde.
Alors on était dans le Valkenberg, hein, la 7e montée du jour, pas pavé non plus celle-ci. Et moi je trouve que c'est quand même la preuve qu'il a été un petit peu piégé, Mathieu Van Der Poel. Il avait retrouvé de la main d'œuvre qui a réussi à diminuer l'écart avec ce groupe de tête. Il y avait notamment Axel Laurent et Søren Krabbe-Andersen qui ont roulé pendant quelques kilomètres. Mais Mathieu Van Der Poel, il a sauté du deuxième au premier groupe parce qu'il estimait que ce premier groupe justement était peut-être un petit peu trop dangereux. Alors c'est en train de revenir, hein. Ça va se regrouper globalement en haut de ce Valkenberg, mais en tout cas il y a deux hommes qui sont partis devant, c'est Mats Pedersen et Gianni Vermeersch, le coéquipier justement de Mathieu Van Der Poel, à 86 km de l'arrivée. Course vraiment complètement folle déjà, Christophe.
Débridé
aujourd'hui. La pluie s'est arrêtée, mais les coureurs, eux, ils ont vraiment des fourmis dans les jambes et ils jouent gagnant. Ils jouent vraiment gagnant aujourd'hui. Mats Pedersen, il va tout donner. J'ai pas l'impression, en tout cas, qu'il soit la première flèche de Lidl Trek pour un deuxième équipier potentiellement aujourd'hui que pourrait être Jonathan Milan. Je pense que vraiment, il joue pour lui et il a l'intention d'aller très très loin, Mats Pedersen.
Ouais, Mats Pedersen, il est peut-être pas parti avec le bon compagnon d'échappée, Cyril, puisqu'il est, il a sur son porte-bagages un équipier de Van Der Poel, donc celui-ci va pas rouler a priori. Hein.
Non, il a un sparadrap sur le porte-bagages là. Van der Poel, ben, pour l'instant, il maîtrise. Hein, il a laissé ses équipiers faire l'effort quand ils sont revenus relativement proches du groupe de tête. Hop, lui, il a fait le petit saut et puis il s'est recalé là. Il a un autre équipier qui est re-rentré. Et Pedersen est en train de se suicider là.
Ouais, Pedersen, c'est étonnant ce qu'il fait là. Lui qui était en grande forme et qui a battu à la pédale la semaine dernière Mathieu Van Der Poel. Malheureusement pour Pedersen, il y a eu cette chute dans Travers la Flandre mercredi qui l'a quand même pluché sérieusement. À tout à l'heure messieurs, 14h28, on va aller faire un tour du côté de Nice. Bah oui, on va quand même aller dans la plus jolie ville de France, sinon du monde, parce qu'il y a un petit match de foot qui nous attend à 15h, qui va opposer des aiglons aux Canaries. A priori, comme ça, en termes de bagarre d'oiseaux, on connaît le vainqueur, mais c'est du foot, c'est pas pareil, Seb, hein, c'est pas pareil.
C'est pas si évident, même si les aiglons peuvent être favoris.
Oui. Ah oui, tu les vois favoris, toi?
Non, bah sur...
Nantes qui récupère un nouvel entraîneur, le sorcier Antoine Comboiré. Hein?
Non, mais alors le seul truc moi qui peut me paraître positif justement, c'est déjà que Gourvennec avait démarré face à Nice au match aller. C'était la première défaite de Nice, c'est à Nantes.
Ouais.
Alors c'est, je crois que c'est
exactement. On rappelle pas ça.
Les seules victoires de Josselin.
On rappelle pas. Moi.
Et puis voilà peut-être l'effet Comboiré, c'est-à-dire une équipe peut-être un peu plus défensive. Voilà, moi je les vois bien les accrocher, prendre un point, ouais. Ça serait déjà pas mal dans la course au maintien.
Il y en a quelques-uns qui ont pris des points à Nice quand même ces derniers temps. Ouais. Maxime Thillet avec nous, notre correspondant. Salut Max.
Bonjour à tous. Max. En effet, ouais, bah les Niçois qui ont une revanche à prendre sur les dernières sorties ici à l'Alliance Riviera, en effet, hein, avec des résultats plus que moyens. Il y a eu cette défaite face à Montpellier, il y a eu un triste 0-0 face à Clermont et la défaite dans le derby face à Monaco. Des Niçois qui, tu le disais Seb, ont perdu à l'aller. Avant cela, ils marchaient sur l'eau avec une moyenne de 2,23 points par match. C'est énorme pour l'OGC Nice. Et à partir de ce moment-là, la moyenne a dégringolé à 1 point par match. Donc ils ont aussi un sentiment de revanche, une revanche à prendre face à ces Canaries qui leur ont mis vraiment des bâtons dans les roues. Et bien du côté des Nantais, justement, la deuxième première d'Antoine Comboiré avec la compo, tu l'attendais Seb, Alban Lafont dans les buts, la défense à 4 avec Amian à droite, Nicolas Cozza à gauche et une charnière Chomert Castelletto. Au milieu, Thierry Vela, Douglas Augusto avec également Florent Mollet et Moussa Sissoko. Donc on imagine également une ligne de 4 devant la défense. Et puis devant, un duo avec Mostafa Mohamed, le meilleur buteur des Canaries, et Mathis Abline qui a la confiance d'Antoine Comboiré. La dernière titularisation de l'attaquant prêté par le Stade Rennais, c'était en décembre à Lyon, et donc Antoine Comboiré lui fait confiance pour changer un petit peu les choses. Rapidement, la compo niçoise avec Boulka dans les buts, Lotomba, Todibo, Dante et Romain Perrault préféré à Melvin Barr. Un milieu à recomposer parce qu'il y a beaucoup d'absences. Thuram et Rosario suspendus, Ndaye Chimié et Sanson sont blessés, et donc on a Boudaoui, Louchet et Alexis Claude Maurice dans ce milieu à 3, et puis devant Terem Mofi avec en soutien Jérémy Boga et Mohamed Alicho.
Parfait. Voilà.
La compo déjà nantaise, à voir comment ça va s'articuler avec. C'est un petit peu une surprise de voir Mollet, mais bon, tant mieux, parce que j'aime beaucoup ce joueur. Pas de Zézé, hein, pas de jeune, hein, souvent avec Antoine Comboiré. Mais voilà, peut-être certainement une ligne de 4 avec peut-être Sissoko et Mollet sur les côtés. Et puis du côté niçois, c'est vrai que beaucoup d'absents au milieu de terrain, donc c'est pas trop de joueurs entre guillemets travailleurs ou athlétiques dans ces trois joueurs alignés. Voilà, on fait avec les moyens du bord des côtés.
Évidemment, au mois de mars, il y a pas mal de.
Et à noter aussi l'absence jusqu'à la fin de saison de Moses Simons, qui était quand même le joueur phare des Canaries cette saison. Ouais.
Très bien, on te retrouve tout à l'heure Maxime avec tous les copains pour le multiplex à partir de 15h. On parie sur ce match tout de suite.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
Et c'est le moment d'accueillir Yoann Bredov.
Salut Christophe.
Salut à tous. Je suis sûr que tu étais plus en train de regarder le Tour des Flandres que les paris là.
C'est pas faux.
Hein, on t'a surpris là. Tac. Alors, tu as des codes quand même à nous donner.
Ouais, bien sûr, je veux une guerre entre vous. Donc Nice-Nantes, c'est parfait. 1,80 la victoire de Nice, qui est largement favori de cette rencontre. 3,25 le match nul. 4,70 la victoire de Nantes. Évidemment, Nice qui a reçu un très bon match à Lens, c'est une très belle victoire 3-1. Moi, je vais rester sur ça. Ouais. Je vais rester quand même sur la victoire de Nice.
C'est impossible de parier
sur le GC. ça, ils n'avaient pas gagné depuis deux semaines.
Ouais, le FC Nantes.
Non, mais de toute façon, c'est impossible de parier sur cette équipe niçoise. Parce que de temps en temps, ils te font ils sortent des matchs incroyables alors que tu les sens au fond du trou et d'autres fois, ils passent à côté.
Ouais, donc, ils ont surperformé pendant des semaines et là, ils sont un peu à leur place.
Ouais, donc tu veux dire que les Nantais sous-performent depuis un moment?
Ils sous-performent. Ils sont sous perfusion, ils sont.
Tiens, je vous propose trois scores exacts, multichance. Du coup, le 1-0, le 2-1 pour Nice ou le 1 but partout. On sait jamais, on va se couvrir. Et ça, c'est 2,30. Ouais. Qu'est-ce qu'on joue, ça?
Moi, je vois bien un match nul.
Voilà, moi, c'est, ouais. Voilà, moi, je me couvre pas. Je voulais même dire le 0-0, mais je vais dire le match nul. Le match nul.
3,25 le match nul, 6,75 le 0-0.
Non, match nul.
Ok, 6,75.
Pas mal déjà. Pas mal
noté.
Il est pas mal le 6,75. Il est pas mal le 0-0 à 6,75 quand même.
Tu vas le jouer ?
Moi je le vois bien. Ouais.
Allez, vas-y.
Ouais, allez. Bon, j'espère me tromper. J'espère qu'il y aura un 4-0 pour le JC Nice. Et tac.
Gourmand.
Merci, yo. On nous dit qu'il faut aller sur le Tour des Flandres parce qu'il se passe des choses, Arnaud, Cyril.
Oui, et notamment une chute, une chute et un favori qui a été, ou en tout cas un des gros outsiders qui a été impliqué dans cette chute et qui a eu un petit peu de mal à repartir parce qu'il était au sol et parce que son vélo était couvert par d'autres vélos. C'est Stefan Kung, le leader de l'équipe Groupama FDJ, le Suisse qui est parti au tapis avec notamment Florian Sénéchal, avec notamment Alessandro Covi du team UAE Team Emirates. Et donc à 80 km de l'arrivée, on a peut-être perdu une flèche du côté de l'équipe Groupama FDJ. Il en reste a priori deux,
avait notamment déjà été Laurent victime Spitty. D'une chute.
Oui, alors non, pas vraiment. Son vélo avait été plus ou moins touché, mais il avait réussi à mettre, on va dire, la main quasiment à l'arrêt par terre pour se relever. Donc il y avait vraiment aucune gravité pour Valentin Madouas. C'était un petit peu plus fort, on va dire, pour Stefan Kung. A priori, il n'y a pas de souci. Hein. Il s'est relevé. Il devrait pouvoir repartir. En tout cas, devant, on a commencé à collaborer un tout petit peu entre Gianni Vermeersche et Mats Pedersen. On a 14 secondes d'avance et ça quand même. 79 km de l'arrivée, commencer à inquiéter des équipiers de l'équipe Visma Lease Bike, puisqu'on est venu se placer en tête de ce peloton des favoris pour maintenir, on va dire, cet écart de 12 secondes en faveur des deux hommes.
Est-ce qu'on aurait des statistiques sur le nombre de gamelles que peut prendre un coureur World Tour en une saison? Je sais pas si vous avez de ça ou.
Bah après,
ou
ça dépend lesquels.
Estimation. Non, mais
ça dépend lesquels.
Une moyenne, quoi.
Je pense que c'est impossible à déterminer. Mais Stefan Kung, par exemple, je pense pas qu'il soit
tombé souvent.
J'ai en souvenir de Stefan Kung une chute sur Paris-Roubaix l'année où c'était sous la pluie. Mais c'est pas régulier qu'il aille au sol. Hein, Stefan Kung, je pense. Par contre, c'est vrai que Julien Alaphilippe, même si c'est souvent de la malchance, il a été un petit peu plus coutumier du fait.
Il y a des périodes comme ça. Des périodes
Julien
où tu
a été pris dans la chute également, hein, mais sans. Il est reparti pratiquement tout de suite.
Ça tombé autant à ton époque, Cyril?
Non.
Non. Ouais, mais il n'y avait pas des oreillettes.
Le nombre de chutes avec un maximum de coureurs est en très nette accélération.
Ouais. Et surtout à une très haute vitesse. Hein.
Ouais, c'est ça
le problème.
On en parlera. On en a déjà un peu parlé dans les grandes gueules
mais
du sport.
C'est
hier,
un vrai sujet. Hein.
Et on en parlera demain dans Grand Plateau, votre podcast consacré au cyclisme. On reviendra évidemment sur ce Tour des Flandres. On parlera de Paris-Roubaix. On parlera de l'état de forme des Français. Et on ouvrira le débat concernant ces chutes collectives qui vraiment font beaucoup de mal au vélo et font beaucoup de mal aux coureurs. Van Aert, donc dernière victime, lui qui s'était préparé spécifiquement pour le Tour des Flandres et Paris-Roubaix et qui a été obligé de déclarer forfait. On le retrouvera peut-être sur le Tour d'Italie, plus vraisemblablement peut-être sur le Tour de France. Si il vient sur le Tour de France, c'est pas mal quand même. Hein.
Ça m'étonnerait qu'il fasse le Tour de France. Hein. C'était pas prévu. Lui, il vise les Jeux Olympiques derrière. C'est pas exclu qu'il s'aligne sur la course en ligne et le contre-la-montre. Juste un petit mot pour revenir sur ce que tu disais sur les chutes. Voilà, moi j'ai croisé plusieurs coureurs qui donnent des tentatives d'explication. D'abord, dire que j'en ai parlé avec Julien Alaphilippe l'autre jour qui me disait que vraiment il avait des frissons rien que de repenser au bruit parce que lui, il a failli être pris dans la chute de Wout Van Aert l'autre jour sur à travers la Flandre. Le peloton est à 85 km/h à ce moment-là. Il a entendu le bruit vraiment. Il dit avoir été choqué. Bon, lui, il avait connu une grosse chute également sur Liège-Bastogne-Liège en 2022. Il avait été éjecté sur un arbre et bon, il avait quand même eu le poumon perforé. On avait eu très très peur pour lui. Mais même, voilà, j'en ai parlé avec Valentin Madouas qui me disait il n'avait pas forcément peur de ces chutes, mais c'était quelque chose. Enfin, une chose à laquelle ils étaient obligés de faire attention. Tu prends forcément en considération le risque que tu d'être sur un vélo et de chuter potentiellement. Et ils t'expliquent que c'est aussi que ça s'est professionnalisé, ça s'est rajeuni, que tout le monde veut être placé à l'avant. Maintenant, chaque placette, on va dire entre guillemets, compte. Que les directeurs sportifs hurlent dans les oreillettes pour être placé à l'avant à tel moment, et que tout ça implique à la fin qu'il y ait des chutes et des chutes de plus en plus graves, ou en tout cas comme celles qu'on a vues mercredi dernier, qui ont coûté assez cher à Wout van Aert.
Et qui donnent une mauvaise image du vélo et qui n'incitent pas les parents à mettre leurs enfants sur un vélo. Et on va finir par manquer de jeunes. Enfin bref, je dis ça, je dis rien. On en parlera demain dans Grand Plateau.
Retrouvez le meilleur du cyclisme sur RMC avec Total Energy. De l'électricité et des services pour maîtriser votre consommation.
L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Et il reste encore 10 minutes. Ouh, belle frappe.
Énorme arrêt de Marco Bizzotto. Ça fait longtemps qu'il n'en avait pas sorti parce que cette deuxième période, elle était. Allez, on espère totalement quelconque jusque-là. Et là, énorme frappe lourde de Darlin Yongwa, le piston gauche, et Marco Bizzotto, main droite, qui détourne ce ballon. Très belle frappe, alors qu'on ne voit pas grand chose. Hein. Si vous êtes en digestion de l'agneau de Pâques là, sur cette deuxième mi-temps, je pense qu'il y a moyen de fermer un œil ou deux.
On pourra s'endormir.
Ah ouais, non, clairement, la deuxième mi-temps, elle est vraiment pas bonne. Lorient joue moins bien après avoir fait une très bonne première, et Brest joue pas vraiment mieux que ce qu'ils nous ont fait en première mi-temps. Imran Louza qui entre en jeu à la place d'Abergel. Il y a également Junior Kroupi qui est entré comme Bamba Dieng à la place de Buanani et de Bamba. Et Steve Mounier est entré en jeu du côté de Brest. Le corner à suivre pour les Lorientais. Allez, il pourrait se passer des choses. Il y a quand même de la tension. Hein. On le sent, Bamba Dieng et Brassier se sont chauffés. Il y a eu un carton jaune pour les deux joueurs. Le corner tiré premier poteau, dégagé par Jonas Martin. Ça revient sur Imran Louza qui, pour son premier ballon, il a tiré ce coup de pied arrêté. C'est dégagé en touche par Bradley Loco. Et le ballon sera toujours Lorientais. Toujours 0-0, pas de vainqueur dans ce derby, un score qui n'arrange pas vraiment aucune des deux équipes.
Ouais, ce que tu disais tout à l'heure. Après, ça peut faire un point pour Brest à l'extérieur. Et puis Lorient, oui, ils seront dépendants des résultats des adversaires. Mais c'est vrai que par rapport à la première mi-temps, c'est là où ils peuvent avoir des regrets. Parce que là, en deuxième mi-temps, même si Brest, bon, c'est pas non plus génial, ils ont un peu mieux géré quand même les Brestois cette deuxième période. Et du coup, on se retrouve avec très très peu de rythme.
Effectivement, un bon coup franc, je ne sais pas si on veut le suivre, Christophe, coup franc à la 83e, 0-0 entre Lorient et Brest, coup franc pour les Lorientais, sorte de mini corner sur la droite en regardant les buts de Bizzotto. Il y a le pied gauche d'Imran Louza qui techniquement normalement il les tire plutôt bien. Il y a du monde dans la surface de réparation, il y a du monde devant la surface aussi, attention peut-être à la combinaison, pourquoi pas vers Eman Kari, à voir ce que fait l'ancien Nantais. Louza qui va chercher le deuxième poteau, Marco Bizzotto qui sort, la tête d'Isaac Touré, ça revient au point de pénalty, Madi Camara pour Kari, et finalement Lorient va être obligé de reculer. 0-0 la 83e.
14h40, on revient dans un instant. On est à 76 km de l'arrivée du Tour des Flandres et on est à 7 minutes de la fin de ce match entre Lorient et Brest. Trois autres matchs vont se succéder à partir de 15h. À tout de suite.
RMC Intégral Sport.
Christophe Cessieux.
14h42, vous êtes sur RMC. L'heure de vérité approche sur le Tour des Flandres. On ira dans quelques instants retrouver Arnaud Souk et Cyril Guimard. On est à 75 km de l'arrivée. Il y a un petit écart maintenant, 21 secondes, pour les hommes de tête sur l'avant-garde du peloton. Et on approche de la fin du match entre Lorient et Brest. Y aura-t-il un vainqueur dans ce match?
Attention, les Brestois à l'attaque. Doumbia, Del Castillo, la frappe de Del Castillo, le but! Romain Del Castillo! Papa, le doigt dans la bouche, évidemment, pour la tétine de sa petite fille qui est venue au monde la nuit de vendredi à samedi. Oh, quel but extrêmement importantissime pour les Brestois, évidemment, et une perte de balle terrible des Lorientais au milieu du terrain. Ça profite à Del Castillo après. Seb, c'est la technique, hein. Il ouvre juste le pied comme il faut. Il n'y a pas beaucoup de puissance, mais ça termine au ras du poteau dans le petit filet. Tu l'avais dit que ça galvanisait les joueurs, une naissance. Ben voilà, 86e, 1-0 pour Brest.
Ouais, ça galvanise, il faut avoir une bonne technique aussi. Non, mais après, c'est pas.
Ah bon, ça file pas la technique de faire des gamins parce que je voulais
y mettre. Non, mais après, c'est quand même le joueur le plus décisif, on l'a dit, un meilleur buteur, meilleur passeur du club. Donc voilà, après, comment il ouvre le pied, elle est imparable quasiment parce qu'en plus, elle passe sous les jambes d'un Lorientais, il me semble. Puis c'est surtout la perte de balle. Après, ça a été très très vite joué de la part des Brestois. Et encore une fois, le match n'est pas encore terminé. Mais voilà, c'est une équipe cette année où il ne leur arrive pas grand-chose finalement cette saison.
Non, clairement,
même dans les moments difficiles, voilà, ils sont là, ils font le
dos rond et puis ça passe. Ah,
ouais. Ouais, on voit ça la passe, rage de Bizzotto.
C'est terrible pour l'Orientais.
Ah, ouais, c'est dur, surtout que la perte de balle, en fait, c'est sur une faute de Doumbia, le Brestois, au milieu du terrain. Donc c'est un coup franc, hein. Une remise en jeu pour Lorient. J'ai pas vu exactement qui la remet mal en retrait, ce qui profite à à Satriano. Mais effectivement, c'est très dur pour les Lorientais. C'est bien payé quand même pour les Brestois au vu de leurs prestations, mais c'est peut-être le signe aussi d'une équipe qui est dans sa saison.
C'est leur année, voilà, c'est leur
exactement
saison.
Exactement, dans leur année. Ouais. Et c'est une victoire qui serait évidemment, qui les rapprocherait encore plus d'un objectif dingue. Il reste du temps, mais on va voir si les Merlus n'ont pas pris un gros coup derrière la nuque. 1-0 pour Brest. Franchement, on n'aurait pas forcément dit ça au vu de leur match. Et pourtant, ils sont bien devant grâce à Romain Del Castillo. Il reste 3 minutes encore dans le temps réglementaire de cette rencontre.
Ok, 14h44. Arnaud Souk, Cyril Guimard, 73 km de l'arrivée. Que se passe-t-il sur la route du Tour des Flandres?
Alors déjà, elle est mouillée, la route du Tour des Flandres. Il pleut désormais clairement. Ton téléphone avait donc raison quand on a enregistré Grand Plateau lundi notre podcast cyclisme. Et je t'avais dit qu'il avait tort, mais non, il avait parfaitement raison. Donc il pleut. Donc forcément, ça va
tu
avoir une incidence.
Raison, ça. Ça, tu sais pas ça encore. Va avoir. Il faudrait que tu te le mettes au fond de la tête quand même un de ces jours.
Ça commence à rentrer, mais ça, en tout cas, ça va avoir une incidence. Cette humidité, forcément, sur les pavés, parce que des pavés mouillés, ce sont des pavés glissants et des pavés sur lesquels parfois on peut patiner un petit peu. On compterait derrière à 72 km de l'arrivée. On a vu notamment Alberto Bettiol, on a vu Timo Hellen, Søren Kragh Andersen, on a vu Laurens Pitti, Mathieu Van Der Poel. À l'instant, c'est Mikkel Bjerg qui sort du peloton. Donc voilà, on lance des flèches vraiment dans tous les sens, hein, j'insiste vraiment sur ce terme parce qu'on a l'impression que c'est ça depuis le début du Tour des Flandres ce matin. C'est Mathieu Van Der Poel seul contre tous, mais Cyril, il a l'air quand même très très fort et bien assis sur son trône, Mathieu Van Der Poel.
Il est serein, ça, c'est une évidence. La course se déroule bien pour lui. Tout à l'heure, il a été un petit peu en difficulté au niveau de ses équipiers, mais pas au niveau de sa sérénité. Ses équipiers ont réussi à revenir. Et puis Mats Pedersen attaque, il pose dans la roue de Mats Pedersen, il met un de ses lieutenants vers Merch. Et donc pendant ce temps-là, il suit, il regarde, il est dans une forme de spectacle et on se rend compte, et on l'a vu sur le dernier Berendries, quand ça attaque, il n'y a qu'une quinzaine de coureurs qui accompagnent, et derrière, on est plutôt laborieux, et je serais pas surpris qu'on ait peut-être une attaque d'assez loin de Mathieu Van Der Poel dès qu'il va sentir que ses équipiers auront donné ce qu'ils pouvaient donner. Et pour l'instant, c'est quand même dans les deux hommes de tête un équipier de Van Der Poel, Vermeersch, qui roule avec Mats Pedersen. Écoutez, je suis désolé, c'est tout bénef.
Oh, Marco Bizot, l'arrêt de Marco Bizot, il est incroyable quand même, ce gardien, avec une tête à bout portant deuxième poteau sur un centre de Louza, et il nous fait un arrêt en mettant son corps un peu comme un gardien de handball. Il la sort,
gardien de handball,
ah ouais, incroyable, il la sort du torse, du ventre, de tout ce que vous voulez, le point rageur vers le parquage brestois. Ouais, il a un caractère, c'est quelque chose quand même. Marco Bizot, encore énorme arrêt du gardien brestois. Toujours 1-0 pour Brest. On entre dans le temps additionnel.
Voilà, on ne sait pas encore combien il y aura de minutes de temps additionnel, mais Lorient va tout faire pour essayer.
5 minutes,
c'est quand même pas mal pour essayer d'égaliser dans ce match. On a vu que les Brestois avaient été dominés quasiment tout au long de la partie. Ils ont réussi à trouver la faille dans les dernières minutes de ce match. 70 km de l'arrivée. Pedersen, c'est quand même dingue. Cyril, hein, ils sont à 18 secondes devant, ils savent qu'ils sont tenus en laisse par le groupe en contre-attaque, et ils continuent sur sa volonté de rester échappé. C'est quasiment du suicide pour Pedersen, qui faisait partie des grands favoris. Hein. Cyril ? Non ? Il veut pas.
Bon. Juste un petit mot, hein, Valentin Madouas qui a retrouvé l'avant-garde du peloton des favoris, Kasper Asgreen qui le mène. Juste pour tempérer un tout petit peu ce que tu dis malgré tout, Christophe, oui, tenu en laisse, mais attention parce qu'il y a le Kruisberg dans quelques kilomètres. Ouais, c'est quand même 2,7 km de montée à 8,5% de pente maximale, donc ça va forcément créer des dégâts. Mais c'est vrai que l'opération, peut-être pas une opération suicide, ça se trouve, il avait peut-être les jambes de sa vie en dépit de sa chute. Et en plus, comme disait Cyril, Gianni Vermeersch roule avec lui. Là, on est à un écart de 25 secondes, donc on ne sait jamais ce qui peut se passer. Hein.
Ouais, c'est pas un suicide alors, Cyril.
Si. Il s'est raté dans un premier temps parce qu'en fait, il a tiré dans le pied. Donc il s'est tiré deux balles dans le pied, mais il est encore vivant. Donc il continue. Vous savez, là, si Van der Poel y sort, il va le chercher en 150 mètres. Donc, et en plus, il aurait un équipier devant. non, pour l'instant, non, cette offensive est complètement nulle. Et d'ailleurs, en tête
de peloton. Pas nulle, Cyril. Elle a le mérite de faire bouger la course.
Mais si, non, elle est nulle, je suis directeur sportif.
Non, mais si tu veux, on peut arriver.
Elle est déjà montée de l'écraser devant.
Oui, mais oui. Mais si tu veux, on peut arriver au kilomètre 254. Mais non, peut-être que s'il
il a probablement ses raisons.
Non, je dis il a ses raisons.
Mais sûrement
il a probablement
qu'il a ses raisons. Elles sont pas bonnes.
Ne dis pas c'est nul.
Elles sont pas bonnes.
C'est un peu péremptoire comme discours.
Ah, la bataille des anciens et des modernes, j'adore.
Non,
ça me fait penser.
Non, là c'est complètement.
Non, mais sinon on arrive en bas du courant à 18 bandes de l'arrivée.
Il a carton rouge.
Ok.
Mais non, attends. C'est pas ça qu'il faut faire. Mais non, c'est pas ça qu'il faut faire.
On va vous laisser. Ah,
Christophe, ne nous empêche pas de.
Non, pas du tout. Parce qu'il y a quand même toute la Bretagne qui attend de savoir ce qui va se passer.
Lorient a marqué.
Non, il reste deux minutes.
Il reste deux minutes.
Donc on va rester avec Xavier pour la fin de ce match. Il reste deux minutes dans le temps additionnel. Ah non, mais t'as vu les Bretons quand ça prend la parole.
Non, mais j'ai entendu que Cyril était pour Lorient. Donc il faut suivre cette fin de match pour que Lorient revienne au score. On a vu Junior Croupy a notamment crocheté dans la surface. Phase de réparation, le centre ensuite est contré. Il manque peut-être un peu de métier, Junior Croupy. Peut-être qu'il aurait pu essayer de s'effondrer, Seb, pour aller chercher
un petit vis.
Mais bon, c'est un gamin, il a 18 ans. Et puis on va pas se plaindre des joueurs qui ne sont pas vicieux, hein, évidemment.
C'est important quand même.
Oui, c'était pas ton genre, le vis. La 93e. 1-0 pour Brest, hein, si vous nous rejoignez. Del Castillo, le but importantissime pour la saison des Brestois. Brest qui pourrait reprendre la deuxième place du classement. Alors peut-être que le mot hold-up serait un peu fort, mais clairement, si une équipe méritait sans doute d'aller chercher ce match sur l'ensemble de la rencontre, sur ce qu'on a vu, c'était plutôt Lorient qui avait fait la plus belle prestation. Là,
ça serait très bien payé
pour les Brestois. Évidemment, là, on va gratter un petit peu de temps avec Del Castillo qui est au sol. Il y a Formose Mendy là, qui est en train de se chauffer avec Doumbia. Et ça part un peu en jeu de main là, parce que Formose Mendy aurait voulu que Del Castillo se relève un petit peu vite, mais Del Castillo, il va prendre son temps pour gratter de précieuses secondes. À une minute de la fin de cette rencontre, 1-0 pour le Stade Brestois, 50 points pour Brest. Est-ce qu'ils y vont là, Seb, à cette journée de la fin avec 50 points
européen, oui.
Là, ils ont 11 points à l'heure où on se parle sur Marseille et Rennes, sachant que Marseille et Rennes jouent en fin de journée.
Après c'est la Ligue des Champions, parce que c'est très 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 serré quand même. Et on parlait tout à l'heure de leur calendrier. Mais voilà, quand tu vois ce genre de match-là, s'ils ne se font pas rejoindre.
Rien ne peut leur arriver. Hein.
Mais voilà, même sans Pierre Lesmélou, même avec Del Castillo qui est rentré en cours de match, dans un match où ils ont été plutôt pas mal menés, mais voilà, il y a quand même eu ce poteau-là de Ponceau, deux, trois situations. Finalement, ouais, j'ai envie de dire, il peut presque rien leur arriver. Donc, européen, certainement. Et après, quand il est deuxième là. À cette journée de la fin, oui, tu peux viser largement la Ligue des Champions.
Ouais, évidemment, on va voir s'il leur arrive quelque chose dans les dernières secondes. Il va en rester 30. Je pense que M. Brizard va les laisser, vu que Del Castillo était resté au sol pendant une trentaine de secondes, avec un dernier ballon dans la surface de réparation. Bamba Niang, la remise de la tête dégagée par Chardonnay, c'est récupéré par Bilal Brahimi qui va l'emmener loin, très loin des buts de Bizot. Brahimi, il l'emmène jusqu'au poteau de corner, suivi par Adjaye. C'est bien joué à ce qu'il fait, Brahimi. Il y a le bon tacle de Eman Kari qui a fait retour et Brahimi va faire sa faute. Voilà, faute intelligente, il va prendre son jeu. Oh, il va prendre un rouge. Ouh, rouge direct. Ah, étonnant, c'est une faute pour couper l'action. Et Monsieur Brizard qui lui met rouge direct. Ah, Brahimi, même il est surpris.
Enfin bon, l'action à 80 mètres quoi.
Ouais, c'est sûr, mais bon, des fautes comme ça pour couper les actions, on en voit plein. Rouge direct, hein, ouais. Sorti par Monsieur Brizard. Peut-être qu'il a vu que il y avait été de bon cœur pour s'abattre la cheville. Donc bref, qui va finir à 10, c'est cette fin de match qui va se terminer. Eric Roy, il comprend rien. Hein. Bruno Grugy non plus. A l'air de dire c'est une faute, la fameuse faute intelligente qui se termine par par un rouge. Voilà la faute tactique et Bilal Brahimi va traverser tout le terrain.
On n'a pas revu le ralenti pour l'instant, mais bon, c'est vrai.
J'avais pas l'impression que c'était que ce soit un attentat. Je comprends que ce soit mal vécu, en tout cas par les Lorientais. Il y aura un dernier ballon sûrement pour Yvon Mvogo une fois que Brahimi aura quitté le terrain, mais il va pas se presser, hein, Brahimi. Évidemment, Yvon Mvogo qui a gagné 15 mètres pour ce coup franc. Faut mettre tous les Lorientais dans la surface de réparation maintenant, essayer peut-être une déviation de la tête d'Isaac Touré et essayer de d'aller chercher une égalisation qui serait pas imméritée et qui serait assez incroyable d'aller la chercher dans les dernières secondes. Pourquoi pas? Comme à Monaco, là, juste avant la trêve, Lorient avait arraché le match nul dans le temps additionnel à la dernière seconde. Le coup franc d'Yvon Mvogo, ce sera pour la tête de qui? La tête de Chardonnay. Le deuxième ballon, il est Lorientais, non? Le bout du pied de Doumbia pour dégager. Et c'est terminé! Oh, les points rageurs des Brestois! Cette victoire, ils peuvent exulter parce qu'elle est pas, c'est pas la plus belle, hein, sur le terrain. Mais c'est peut-être l'une des plus importantes pour lancer le sprint final. Victoire 1-0 des Brestois ici dans le derby à Lorient. Le but d'El Castillo à la 86e. Brest reprend sa deuxième place. Lorient va être sous la menace de Nantes, notamment pour retrouver une place de barragiste.
Merci Xavier. On espère qu'il n'y aura pas du poisson pourri devant le centre d'entraînement de Lorient, comme ça avait été le cas sur une défaite. Franchement, il ne mérite pas de perdre aujourd'hui.
Non, dans le contenu et puis... même dans le comportement, non, ça risque pas d'arriver. Mais par contre, ça reste une défaite un peu au goût amer pour les Lorientais. Au-delà que ce soit un derby, c'est vrai qu'ils auraient pu à minima prendre un point. Voilà, il faut qu'ils repartent de l'avant, sachant que derrière, ça risque de pousser.
Merci Seb, tu vas poursuivre avec Benoît Brouton qui arrive. Il y a Nantes, Nice.
Il n'y a pas que Nice.
Mais il y a que un match qui nous intéresse cet après-midi. Il faut bien dire ça, Benoît. Il y a aussi le Tour des Flandres qui nous intéresse. Forcément, on est à combien 65 km de l'arrivée. Un nouveau point avec toi, Arnaud.
Est-ce que toujours Mats Pedersen en tête avec Gianni Vermeersch. Ça, c'est nul, nous dit Cyril Guimard, mais ça a au moins le mérite de faire rouler derrière les équipiers de Mathieu Van Der Poel. Tellement c'est nul. Alors c'est peut-être un faux rythme qu'ils ont installé. Dont la montée du Kruisberg, mais en tout cas ils se sont sentis obligés de venir se placer en tête de peloton pour rouler. On a aperçu également Valentin Madouas et Julien Alaphilippe dans les premières positions. La prochaine difficulté, c'est le vieux Coirmont.
Très bien. Eh ben moi je vais vous écouter à la radio. Je vais écouter Benoît qui va prendre le relais dans un instant. Sébastien, Cyril reste là évidemment. Arnaud va s'enflammer pour l'arrivée. Bref, c'est une magnifique fin d'après-midi qui nous attend. Alors régalez-vous sur RMC. Ciao.
RMC Intégral Foot Liga.